Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel. Le dernier épisode de ce podcast, je l'annonce ici, ce sera le dernier épisode de Radio Librius. Mais rassurez-vous, nous allons continuer à faire des podcasts, on va juste changer de nom. C'était un peu le teasing un peu bâtard.
Quel effet d'annonce de folie.
Oui, exactement. J'en profite pour saluer mes deux camarades avec qui on va faire cette émission, évidemment. Bonsoir Monique du Terre-Terre, qui est dans
Bonjour
le Terre-Terre.
Bonjour les amis.
Ça va dans le Terre-Terre ?
Ça va, tout se passe bien en Guerre-les-Bains, à part qu'on vient d'enchaîner 10 jours de pluie, mais sinon ça va.
Ah ouais. Ouais, c'est vrai que la météo est pourrie là, c'est vraiment badant. Mikael.
Pour tous mes vélos taffeurs. Hein.
Ouais, on pense à eux. Mikael aussi est avec nous. Bonsoir Mikael.
Bonsoir, et il pleut aussi dans ma Vendée profonde.
Ah, j'ai l'impression que la France entière est sous la pluie. Un bon prétexte pour jouer aux jeux vidéo, puisque bah, évidemment, on va parler de jeux vidéo dans ce podcast consacré aux jeux vidéo. Je vous fais un petit teasing des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, après la partie actualité dans laquelle on parlera de Helldivers 2, de Elden Ring et son DLC, du dématérialisé qui prend de plus en plus d'ampleur, de SMT5 Vengeance et de plein d'autres choses. On parlera, comme gros morceau de cet épisode, de Like a Dragon Infinite Wealth, qui est donc le jeu auquel on a tous les trois joué, ce qui est pas commun, et ça arrive pas toujours dans cet épisode, enfin dans ce podcast, qu'on finisse des jeux, qu'on joue ensemble au même jeu. Donc là, ça va être un sacré débat. Et puis évidemment, on parlera aussi de autre chose que de jeux vidéo à la fin, avec la rubrique hors-jeu. Avant d'attaquer le programme de ce podcast, je profite de ce lancement pour saluer et remercier nos patriotes qui nous soutiennent sur patreon.com/radiolibrius, qui va bientôt changer de nom, vous verrez ça dans le prochain épisode. On vient d'enregistrer d'ailleurs un épisode bonus consacré aux patriotes, que vous pourrez retrouver sur notre page Patreon, sur Final Fantasy, à l'occasion de la sortie de Rebirth dans quelques jours. On est revenu sur la licence FF, son importance pour nous, son rapport aussi avec le monde du jeu vidéo en général, nos épisodes préférés aussi peut-être, l'impact de FF7 et son aura. Enfin bref, plein de sujets, plein de discussions autour de la licence Final Fantasy, et il y a plein d'autres épisodes bonus que vous pourrez rattraper sur le Patreon. Le prochain épisode, je le disais donc, verra le podcast changer de nom, changer de logo et changer de générique, avec un très 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 cool générique composé par ce cher Monique du Terre-Terre, qui nous a fait un super truc, vous verrez ça. Ça fait vraiment plaisir. Peut-être Monique, tu peux revenir sur tes inspirations, sur comment t'as trouvé ce souffle artistique pour réaliser...
On en parlera quand ça sera sorti.
Je faisais une petite blague. Donc Radio Librius Rebirth, après Final Fantasy VII Rebirth, en mars 2024.
Un rebranding, comme on dit dans le métier.
Ouais. Ouais, comme on dit chez les connards de marketeux.
Quoique.
Eh oh, un peu de respect, s'il te plaît.
Mikael est l'exception.
Not all marketeux. Même si je ne suis plus un marketeux, je suis un youtubeur, mais je tiens à dire également, not all youtubeur. Ça marche aussi.
C'est vrai que Mikael, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Pour revenir du coup au sujet principal de ce podcast, à savoir le jeu vidéo, commençons donc par parler d'actualité. Petit retour, je vous fais un petit retour vite fait sur le concert Nier auquel je suis allé il y a quelques jours. C'était trop bien. Vraiment, j'étais ultra déçu du précédent concert où j'étais allé. J'avais claqué des centaines d'euros pour aller à Londres voir le concert en 2020. C'était horrible. J'avais trouvé ça vraiment vraiment une expérience de concert détestable. Les arrangements étaient bourrins, j'avais trouvé l'acoustique vraiment pourrie de chez pourrie. C'était un gros américain qui avait saccagé le travail d'orfèvre de Keishi Okabe et le studio Monaka. Donc là, franchement, ça faisait ultra plaisir de voir un concert de Nier. Donc là, c'était à la fois Nier et Nier Automata, qui vraiment respecte le matériau d'origine, avec évidemment des nouveaux arrangements, mais qui ont été faits pour le coup avec beaucoup de respect pour les compositions de Keishi Okabe. C'était trop trop stylé. Et c'était l'occasion aussi de revenir pour la série Nier sur le parcours de vente de Nier Automata, qui vient de passer la barre des 8 millions de copies vendues. C'est-à-dire que le précédent chiffre qu'on avait, c'était 7 millions et c'était en novembre 2022. Ce qui veut dire qu'en gros, le jeu a vendu 1 million d'exemplaires en plus en un petit peu plus d'un an. Ce qui est super cool, ce qui montre que le jeu a quand même encore aujourd'hui, qui continue à vendre des exemplaires et que voilà, on continue d'en parler et continue d'être découvert par des nouvelles personnes, ce qui fait quand même assez plaisir. Dans le registre des annonces sur Nier, la mort du jeu mobile Nier Réincarnation, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, il est pourtant sorti en Europe, qui est programmé donc pour le 30 avril 2024, fin de partie. Mort des serveurs pardon pour Nier Réincarnation, ce qui prouve bien quand même que la fanbase de Nier attend surtout un Nier premium, un Nier solo sur console de salon, qui soit entre guillemets un jeu ambitieux, en tout cas à la hauteur des deux premiers épisodes.
On va dire un jeu dans la droite lignée de la série Nier, quoi.
C'est ça, et effectivement les déclinaisons mobiles. Ouais, les déclinaisons mobiles n'ont pas trop marché, sachant qu'en plus, il y avait un autre jeu mobile qui était prévu pour cette année. Il a été tout simplement annulé. On ne verra jamais à quoi il ressemblait. Je ne sais pas si tu avais joué, toi, Monique.
Ah non, faut pas déconner. Mais juste rapidement, je fais un petit écho. Alors, effectivement, c'est dans le bonus du podcast. Mais pour refaire un peu de contexte rapidement, il y avait Pierre qui disait que... FF15, ce sera peut-être le FF7 de sa génération pour les joueurs les plus jeunes. Je pense que le JRPG culte des plus jeunes, je pense plutôt toi que ce sera Nier Automata. C'est pas vraiment un JRPG, mais bon, on s'est compris.
Oui, effectivement, c'est pas vraiment un JRPG. Maintenant, je sais pas à quel point... je sais pas comment j'aurais kiffé Nier Automata si j'avais découvert ça ado, tu vois. J'arrive pas à m'imaginer...
Ouais, et en plus...
tu vois.
8 millions de copies pour un jeu R 2020, on va dire. Je trouve que c'est relativement peu pour en faire un truc aussi mainstream que ce qu'a été FF7, quoi.
Alors, ouais. Certes, mais je pense qu'auprès d'une certaine audience de jeunes
jeune
zoomers et alpha, voilà, je pense que c'est un jeu qui va vraiment être culte et que ça aura transmis la passion.
Je pense qu'il a...
Dans 20 ans, il va y avoir un ou une directrice d'un gros jeu qui va dire, voilà, moi, le jeu qui m'a matrixé quand j'étais petite, c'était Nier Automata.
Ah bah, de ouf. Le jeu a un potentiel à embrigader et à lobotomiser. Il suffit de regarder Olvius.
Réel, ça.
Bâtard. Ah non, mais en vrai, je suis loin d'être le seul. J'ai appris récemment
carrément.
Tu vois, le jeu préféré de Modi, c'est aussi Nier Automata. Et régulièrement, j'apprends que des gens me disent « Ah ouais, bah mon jeu préféré, c'est Nier Automata. »
Ça, c'est les zoomers, ça, c'est ce que je disais.
Oh, les zoomers, c'est pas que les zoomers. Modi, elle doit avoir 28-29 ans, quoi. Donc, c'est pas non plus... c'est pas tout à fait la même génération. Mais en vrai, je pense qu'il y a aussi des zoomers qui ont kiffé Nier Automata et qui... pour qui ça va devenir un jalon dans leur parcours de joueur, quoi. Clairement. Bon, en tout cas, c'est un jeu qui continue à bien se vendre et ça fait plaisir. Petit point avant d'attaquer les autres news sur l'état de l'industrie du jeu vidéo que Monique a proposé de nous faire. Je crois que tu voulais réagir à la base à un article de Canard PC, donc des journalistes jeux vidéo qui apparemment font du journalisme jeux vidéo, ce qui est quand même assez rare.
Oh voilà, oh, tout... Pierre la malveillance. Mais non, voilà, on fait un peu écho à effectivement, on l'avait rapidement évoqué dans le dernier podcast, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop de matière journalistique, on va dire, hein, qui s'était vraiment penché dessus un peu plus entre guillemets sérieusement que juste déplorer les licenciements. Et pour le coup, bah voilà, Canard PC, on fait le taf. Yvan Godet, alors je fais vraiment un TLDR très rapide. Alors c'est pas un gros article, mais quand même je fais un TLDR, tout ça. Alors déjà, petit point par rapport à cette crise, effectivement, faut pas mettre tous les licenciements dans le même sac. Genre tu vois, genre les licenciements qu'il y a chez Microsoft, c'est pas la même raison que dans d'autres studios. Chez Microsoft et Bethesda, par exemple,
Epic.
Microsoft, ça va plutôt être par rapport à ce qui va se passer avec Activision et tout, restructuration, plus le fait d'avoir récupéré plein de trucs. Donc voilà, on va dire c'est du nettoyage entre guillemets d'organigramme auquel c'est lié, alors qu'il y en a d'autres où c'est lié à d'autres problèmes. Par exemple, le fait que les financiers, en gros, ils ont tablé sur une forte croissance. Après la reprise du Covid, sauf que les coûts de développement plus augmenté que la base de consommateurs, ou en tout cas l'appétit plutôt du marché. On va dire ça comme ça. Et aussi, du coup, il y a le contexte inflationniste qui fait que les coûts de crédit, ils ont explosé, et aussi les liquidités ont diminué. Et voilà, donc bref, il y a tout un contexte économique qui fait que... voilà. Et aussi, un autre truc intéressant aussi qui soulignait dans l'article, c'est aussi le marché du game as a service aussi qui voit un caillou dans la chaussure, c'est comme ça qu'on dit, une épine dans le pied, voilà, quelque chose comme ça.
Les deux fonctionnent, ouais.
Voilà. En gros, c'est qu'il y a des jeux éternels, on va dire ça comme ça, entre guillemets, qui font que les nouveaux game as service n'arrivent pas forcément à recruter les joueurs dont ils ont besoin pour être vraiment profitable, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, ils sont restés coincés sur WoW, LoL, Fortnite, tout ça, et ils n'ont pas forcément pivoté sur Suicide Squad, par exemple.
On va en parler de Suicide Squad, justement.
Tu as vu cette transition?
Bah, c'est magnifique. C'est un des jeux, pour le coup, qui fait partie de cette stratégie. Juste, je voulais juste rebondir sur un point que tu soulevais, là, sur la partie un peu... bah, restructuration chez Microsoft, question de rentabilité chez les autres boîtes. Il y a quand même, enfin, on peut déjà se mettre d'accord sur le fait que, pour être bien clair, les auditeurs qui n'ont pas bien compris la dernière fois, on nique les capitalistes. Et sérieusement, dans le jeu vidéo, il y a un problème de rapport à cette question de la rentabilité et aux projets qui sont lancés, sans savoir trop si ça va permettre de rentabiliser le truc ou pas. Je m'explique. Je pense un exemple très particulier et très précis. Embracer, vous connaissez cette espèce de conglomérat, je crois suédois au départ, qui est dirigé par un milliardaire. Un des seuls milliardaires du jeu vidéo, on n'en a pas beaucoup, mais lui, c'en est un, qui a racheté quantité de studios. Pardon, vous vouliez dire ?
Ouais, rapidement, il y a quand même le poteau Bolloré.
Oui, effectivement.
Qui nous sort des délicieux Mika Racing.
Alors lui, pour le coup, il est actionnaire de Ubisoft, je crois, Bolloré.
De Gameloft, c'est qu'il a racheté surtout.
Ah oui, c'est ça, c'est Gameloft, effectivement. Et il a des parts d'Ubisoft aussi, de mémoire. Mais oui, ça fait partie des exemples aussi. Alors, il n'est pas PDG d'une boîte de jeux vidéo à proprement parler.
Bah, Gameloft, il me semble, c'est à lui.
Ouais, il est propriétaire, ouais. Mais bref, donc pour revenir sur Embracer, le PDG d'Embracer, ils ont racheté une quantité de studios depuis plusieurs années. Tous les trois jours, on voit un studio, ah, Embracer, ils ont racheté, ils ont laissé beaucoup de projets se poursuivre après le rachat, et maintenant, ils disent, bon, bah, finalement, ce projet-là, ils viennent killer le truc, alors que, clairement, enfin... dès le départ, ils auraient pu très bien anticiper le fait qu'ils n'allaient pas continuer ce projet-là et ils pouvaient le killer dès le rachat, en fait. Et ils ont laissé se poursuivre un tas de projets assez hallucinants. Et quand ils se rendent compte au bout d'un moment que le truc est en train de devenir un peu sérieux, ils se disent « Ah oui, non, mais ça va pas marcher, donc on kill le projet, on supprime les postes, on ferme le studio, parce que sinon, évidemment, la quantité de thunas qu'on va pouvoir redistribuer à nos actionnaires sera pas suffisante. » Donc il y a quand même des... Enfin, je trouve qu'il y a quand même des gestions, et c'est là, tu vois, à quel point les capitalistes sont globalement un peu nuls à chier, c'est que, y compris dans leur logique... Ils prennent parfois des décisions qui sont complètement absurdes dans le jeu vidéo. Typiquement, cet exemple d'Embracer qui laisse se poursuivre des projets alors qu'ils savaient très bien que c'était des projets qui allaient pas être rentables, en tout cas à leurs yeux, et qu'ils auraient pu killer dès le début, quoi.
Alors, justement, dans l'article, ils s'attardent pas sur le cas d'Embracer en particulier, mais logiquement, ce qui s'est passé avec Embracer, justement, c'était ça, le contexte de reprise d'activité et le gros appel d'air du Covid qui a été pris en étau avec justement la chute des liquidités à cause de l'inflation et de la hausse des taux de crédit, qui fait que tu passes d'un moment où faut jeter de l'argent par la fenêtre parce que c'est le moment, le marché a faim. Et après, un moment où t'as le mur financier qui vient t'embêter, quoi.
La fameuse Babylone qui est toujours là avec son épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Mais effectivement, enfin, le marché du jeu vidéo étant ultra capitaliste aussi, il faut bien voir qu'il est très soumis aux aléas du marché. Comme tu dis, la tyrannie du marché qui dit.
Oui, c'est ça, parce que plus que le capitalisme, c'est un problème on va dire, de la financiarisation.
Ouais, du capitalisme vraiment financier, ouais. Ouais, complètement. La dimension actionnariale, enfin, le fait qu'il faille distribuer des dividendes à des actionnaires et que, grosso modo, les entreprises de jeux vidéo soient possédées sous format de parts par tout un ensemble d'actionnaires, ça pose des problèmes sur le rapport entre. Un truc qui est quand même, enfin, que beaucoup de gens et beaucoup de joueurs, Mikael, tu le disais très bien dans le dernier épisode, mais beaucoup de joueurs s'intéressent quasi exclusivement à la dimension divertissement, artistique, tout ce que vous voulez, enfin, en tout cas, au jeu vidéo en lui-même. Et à côté, quand même, enfin, comme le faisait remarquer un auditeur aussi dans les commentaires, l'envers du décor, les coulisses sont parfois un petit peu sales. Et beaucoup de gens veulent pas forcément se confronter avec cette matière un peu pure, enfin un peu brute, pardon, et sale, qu'est la production de jeux vidéo avec les entreprises qui tournent les gens, etc. Et la dimension, évidemment, qui est pas forcément reluisante de l'industrie. Pour revenir un petit peu sur la partie actu. Désolé pour la transition que je t'ai un peu flingué, Monique. À moins que Mikael, tu voulais rajouter un truc là-dessus.
Non, je suis aligné avec vous, vous avez fait un beau résumé, merci, au revoir.
Eh ben nickel. Pour revenir du coup sur l'exemple que tu donnais, donc des Game as a Service, qui sont quand même depuis quelques années un des leviers que beaucoup d'éditeurs essayent de tirer pour augmenter leur rentabilité, Suicide Squad, le dernier jeu de Rocksteady, un studio quand même illustre, studio britannique qui a été mondialement connu pour sa trilogie Arkham, qui était quand même des sacrés bons jeux. Hein, il ne faut pas non plus oublier qu'ils ont quand même inventé un truc avec Arkham Asylum. Moi, c'est le seul que j'ai fait du coup pour de la trilogie.
Mais, t'avais pas fait Knight aussi ?
Non, j'ai pas fait les autres. J'ai bien aimé, en fait, j'ai bien aimé Arkham Asylum, mais pour le coup, j'ai pas d'affect particulier avec les jeux de super-héros, donc ça m'a pas donné envie. Je sais que Arkham City aussi a beaucoup été salué pour l'open world qu'il avait réussi à créer.
Ouais, moi j'ai surtout kiffé les deux premiers pour le coup.
Oui, c'est souvent les deux préférés, sachant que le troisième est un peu controversé. Mais donc,
pire version PC de l'histoire, Manson en ce moment.
Oui, voilà.
C'est aussi pour ça qu'il a été controversé.
C'est un des facteurs de mauvais souvenirs. Je crois qu'il a été patché depuis. Hein, mais,
ah oui, complètement, oui.
Ah oui, de toute façon, à l'époque, il était littéralement injouable, donc ils n'ont pas eu le choix. Mais vraiment, c'est pas une expression, quoi.
Et même sur... alors, ça dépendait des PC, voilà, où des fois, c'était effectivement pas du tout jouable. Et quand c'était jouable, c'était une catastrophe. Pour le coup, ils avaient filé tous les jeux Batman sur PC. Alors moi, je les ai tous, parce que, effectivement, la version était...
C'était trop flingué, quoi.
Ouais, non, c'était... Enfin, je connais peu d'exemples aussi catastrophiques, quoi.
Ouais, ça avait été assez retentissant. Même Mikael, il me semble que tu avais fait une vidéo à l'époque sur ça. Mais donc, pour revenir à Suicide Squad, le Game as a Service de Remedy, qu'est-ce que je raconte, de Rocksteady, qui donc vient de sortir il y a quelques semaines. Évidemment, le jeu, c'est un énorme bide. C'est assez terrible. Le directeur financier de Warner Bros., qui est donc l'éditeur du jeu, explique que, ouvrez les guillemets, le jeu n'a pas répondu aux attentes depuis sa sortie, et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que déjà, bon, en termes de réception critique, le jeu a été quand même assez mal reçu.
60 sur Open Critic.
Ouais, 60 sur Open Critic, c'est assez peu. Je crois que c'est à peu près pareil sur Metacritic, donc globalement, la réception est pas terrible. Mais des jeux de merde qui cartonnent, c'est pas ça qui manque. Donc on pourrait se dire, c'est pas tellement la qualité du jeu qui crée le problème. Regardez Palworld. Mais d'un autre côté, on va pas plaindre Warner Bros. Non plus, qui avait explosé tous les records, souvenez-vous, l'année dernière, avec Hogwarts Legacy en février 2023, qui a explosé tous les chiffres, qui encore aujourd'hui continue à se vendre par palette. Mais les chiffres du jeu de Rocksteady, donc pour le coup de Suicide Squad, sont hyper inquiétants pour la viabilité du jeu, puisque c'est quand même un jeu qui est normalement amené à s'inscrire dans la durée avec des mises à jour. Il y a une feuille de route, il y a des saisons, il y a des événements, etc. qui sont prévus. On a atteint un pic de joueurs quotidiens à moins de 1000 personnes sur Steam. Pour vous donner un élément de comparaison avec un autre jeu du même genre, donc un autre game as a service, Jarod de Gamekult cite The Division 2, qui tape en moyenne des 5000 joueurs par jour aujourd'hui, alors que le jeu a 5 ans. Ce qui est quand même assez hallucinant.
Mais
quoi.
Il y a un truc qui m'interroge, moi, sur Suicide Squad, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une grosse campagne de com' autour du jeu ? Moi j'en viens
dans le
te
métro.
Demander... Non, t'es sérieux ?
Je te promets. Ah ouais, il y avait des affiches dans le métro à Paris. Même dans des, mais j'ai vu dans des bus et tout.
La dinguerie, parce que j'en viens à me demander comment ils ont pu croire que ça allait marcher. Enfin, je sais que c'est facile de faire l'inspecteur des travaux finis, mais pour le coup, ça, je me demande même si, au-delà de nos conversations privées, on ne l'avait pas évoqué dans le podcast, mais lancer un jeu-service Suicide Squad en 2024, enfin, pour moi, c'était du suicide. Et il y a un moment, en plus... Suicide Squad, ok, il y a eu le jeu service Marvel qui a bien marché, etc.
Non, il a pas bien marché, justement.
Non, mais bien marché, qui a sauvé les meubles, on va dire.
Ouais,
mais t'avais quand même pas la même force de licence, tu vois. Suicide Squad, j'ai pas non plus l'impression que ce soit le truc qui tue tout dans leur univers.
Oui, là,
enfin,
oui.
Pour moi, il y avait rien qui prédestinait ce truc à survivre, quoi.
Là où ils ont été un peu cons, je pense, c'est quand ça s'appelle, comme les films, je crois, n'ont pas trop mal marché, ils ont dû se dire, bon, bah, il y a peut-être un truc à faire, sauf que je pense que la marque qui est forte là-dedans, c'est pas Suicide Squad, c'est la meuf Joker, là, je sais plus comment
Harley Quinn,
Harley Quinn, voilà.
Ouais.
Les zoomers, ils kiffent TikTok, tout ça.
Tu vois, le jeu Marvel, il a tenu 3 ans, tu vois.
Ouais quand même, hein.
Mais dans le même genre aussi, et ça fait aussi écho au papier hein, d'Yvan Godet, là, où il parlait de, effectivement, les gaz. Qui sont parasités par les anciens gaz qui sont toujours, enfin qui tournent toujours, tu vois. Donc c'était bon exemple avec The Division.
Donc gaz game as a service pour les gens qui n'ont pas le sigle.
Ouais, voilà, la data de The Division, elle est très intéressante parce que justement ça montre ce problème parce qu'il y en a un autre aussi qui a fini à 60 sur OpenCritic.
C'est Gotham Knights, non ?
Non, c'est Skull and Bones.
Ah, effectivement, aussi. Qui est aussi un jeu service, ouais.
Et qui vient
de sortir. Un quadruple A. Selon Yves Guillemot, il a dit non, c'est pas un triple A, c'est un quadruple A, attention.
Ouais, Skull and Miskin, hein.
Skull and Miskin, putain. Franchement, il fait bader le jeu. Mais alors, pour revenir vite fait sur Suicide Squad, le plus triste dans toute cette histoire, c'est que la sortie du jeu, qui donc est passée quand même relativement inaperçue et qui bide encore une fois de fou, a donné envie aux joueurs de relancer les Batman de Rocksteady pour essayer de se remémorer la grande époque du studio. Et on a vu donc. Arkham Knight, qui a été patché depuis sur PC, dépassait les 6500 joueurs simultanés sur Steam, alors que le jeu est sorti en 2015, et que en parallèle, comment dire, Suicide Squad faisait 1000 joueurs. Donc il y avait 6 fois plus de joueurs sur un jeu solo d'il y a 10 ans que sur le nouveau jeu Fer de Lance, qui est censé être la nouvelle vitrine de Warner Bros. Quoi. C'est terrible, franchement, c'est terrible.
C'est ça le truc qui est intéressant, c'est que tu vois, alors effectivement, Yvan Godet, il parlait du marché du gaz qui se cannibalise, mais c'est vrai que au final, comme les jeux vieillissent moins le temps faisant, c'est vrai que paradoxalement, peut-être les gens vont moins jouer à des nouveautés que peut-être que l'avenir du jeu vidéo, c'est peut-être des nouveautés qui vont peut-être moins performer en dehors des très très grosses sorties évidemment quoi.
Oui, notamment les jeux premium de Sony continueront je pense à créer des événements.
Ça ou même FF7 Remake, je serais pas étonné que là il ait un regain de popularité ces prochains jours quoi.
Ah oui, je pense qu'il va vraiment bien marcher.
D'ailleurs, petite digression sur Skull and Bones vu que vous l'avez évoqué avant qu'on parte trop loin. Je vous avais dit que j'étais curieux et tout, et moi je l'avais suivi de très très loin, j'avais pas capté que c'était un jeu service. À partir du moment où j'ai compris ça, j'avais même plus de curiosité.
Ah ouais, mais
c'était pas très clair dans la com au fur et à mesure des années, parce qu'à un moment ils ont essayé de vendre un peu du scénar, et à un moment ils ont essayé de vendre un peu du versus.
Vois, moi qui ai suivi de loin, j'ai appris ça, je me suis dit merci, au revoir, tu vois, même le côté. Petit jeu solo qui a un concept un peu atypique, mais il faut quand même le dire.
Je me suis dit,
ok, ça peut être intéressant de zioter et tout, mais non, quoi. Et on en revient au côté, aujourd'hui, tu veux lancer un jeu service, soit il te faut des campagnes de com massives, soit il faut une licence ultra forte, soit il faut un jeu d'une qualité dingo, mais c'est tellement un engagement dans la vie des gens, les vieux jeux vieillissent tellement bien et tu peux tellement rester dessus, c'est le principe du jeu service.
C'est ça, FF14 va sur ses 10 ans et WoW va sur ses 20,
oui,
quoi.
Mais justement, c'est comme quand t'avais la ruée vers l'or, vers les MMO, que tous les éditeurs, tous les développeurs lançaient leur MMO, hein. Et qu'en fait, ils ont mis du temps à comprendre que, bah, en fait, c'est dur de conquérir le marché du MMO, parce
qu'il y a World of Warcraft,
si
quoi.
Tu fais... Mais parce qu'en fait, si tu fais ne serait-ce, il faut faire beaucoup mieux. Si tu fais aussi bien, ce qui était hyper chaud déjà, si tu fais aussi bien, t'as aucune raison. Les gens, ils vont pas bouger pour aller sur un jeu aussi bien. Il faut vraiment un jeu qui soit un game changer, qui mette un coup de pied dans la fourmilière, et où t'as des mecs qui se disent « Ah bah ok, vas-y, moi et ma guilde, on va bouger, on va passer sur le nouveau jeu. » C'est
ouais,
la même
fou, ouais.
chose sur les jeux services. Donc en fait, t'as 4 millions de jeux services aux F, mais à un point incroyable qui se lancent. Mais quelle est la raison de se mettre dessus, quoi ?
Mais surtout, comme tu soulignais Mikael, j'ai l'impression que maintenant, pour beaucoup de joueurs... le simple terme de jeu service, c'est un truc qui fait fuir les gens, quoi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est presque une sorte de d'handicap pour le jeu de se présenter comme ça. Ubisoft, ils ont quand même tenté un truc. Enfin,
je nuancerai ce que tu dis parce que auprès de effectivement des gens qui dépensent beaucoup d'argent en jeux vidéo et qui vont acheter un jeu, en gros, au moins un jeu tous les mois. Auprès de ces gens-là, je veux bien croire qu'effectivement, le terme GaaS et l'idée du GaaS, ça peut être très repoussoir. Néanmoins, il y a quand même toute une partie du public qui, effectivement, a une pratique très sociable, très sociabilisée, en tout cas, du jeu vidéo, où globalement, ça va être, bon, bah, cette période-là, je vais jouer à tel jeu pendant 3-4 mois, et à cette période-là, pareil, machin. Je veux dire, ça a aussi un attrait pour beaucoup de gens.
Oui, oui, non, mais bien sûr.
Ouais, mais tu vois, pour moi, le côté game as service, tu vends la stratégie commerciale et pas la promesse aux joueurs. Donc déjà, il y a un problème avec le terme même.
C'est vrai.
Parce
aussi.
Que moi aussi, hein, j'ai passé des mois et des mois à jouer au même jeu multijoueur, que ce soit des MMO, que ce soit des FPS en ligne, que ce soit... Bah, même des jeux qui pourraient être catalogués de jeux service.
Bah, Left 4 Dead 2, c'est un des premiers, tu vois, dans le genre.
Ouais, mais tu le vends pas sur un côté jeu service. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, tu marketes le truc avec, encore une fois, un argument qui est une stratégie commerciale et qui est pas une promesse pour les joueurs, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'en plus, à bien y penser, c'est vrai que ça parle pas du tout à l'affect de joueurs, quoi. C'est vraiment le côté purement boutiquier qui est mis en avant avec ce terme, effectivement.
Ouais, ouais.
Bah ouais, c'est limite ton business model, quoi. Enfin, tu vois.
C'est assez déprimant, ouais. En tout cas.
Comme si t'achetais un produit, tu sais, on te mettait genre fraude fiscale.
Non, mais tu vois, c'est quand même. En fait, mais oui, non, mais.
Ou licenciement de main-d'œuvre sur un jeu.
Non, mais tu vois, moi, l'image parfaite, c'est comme si. T'allais me parler du fait que HP ils font leur marge sur les cartouches d'imprimante plutôt que sur l'imprimante. Je te dis, mais j'en ai rien à foutre, ça. Tu vois, tu me vas pas me le vendre comme une catégorie de produit. Le fait qu'on me baise sur le consommable Nespresso, ils te vendent pas ça quand ils essayent de vendre leur machine.
Oui, c'est vrai.
Non,
ils appellent pas ça stratégie de la lame de rasoir.
Si, c'est un vrai
comme
truc.
On appelait ça il y a quelques années.
Oui, non, mais c'est un vrai truc. Mais t'es pas censé avoir une. Quand tu testes une machine à café, tu vas pas le mettre en avant. Or, quand tu testes un jeu vidéo, tu vas le mettre en avant. Tu vois un peu le problème ?
Ouais, mais en même temps, c'est vrai que ça montre aussi le côté très mercantile du jeu vidéo. Des fois, on s'en met
pas
compte.
Ah, de ouf.
Ah, bien sûr, ouais. Et pourtant, vous voyez, il y a un jeu qui se vend pas particulièrement. En tout cas, pour lequel la communication a pas été axée sur le côté jeu-service et qui pourtant... cartonne de ouf, c'est Helldivers 2. Et là, pour le coup, ça rejoint complètement ce que Mikael essayait de décrire, c'est-à-dire il faut que ton jeu il soit qu'il soit exceptionnel pour faire bouger les gens.
En tout cas, qu'il fasse rêver.
Voilà, je pense que Helldivers 2... Alors, il y a à la fois un effet de qualité, évidemment, du jeu. Le jeu est incroyable. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, depuis quelques années, dans le jeu vidéo... une manière de concevoir l'actualité, c'est-à-dire le moment, c'est-à-dire que maintenant on répond à de la hype. il y a des moments comme ça où t'as des effets d'entraînement. Il y a eu ça pour Valheim, il y a eu ça pour Vampire Survivors. Il y a régulièrement comme ça, même Palworld. Palworld qui a tapé les 25 millions de joueurs. Évidemment, maintenant, j'en case une pour le jeu. C'est en train de chuter, mais à une vitesse. Le jeu est passé de 2,1 millions de joueurs simultanés sur Steam en pic à 300 000 en moyenne aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une chute libre.
Non, et même ce que je disais hein, sur Twitch, il passe régulièrement derrière Street Fighter 6. Rendez-vous compte. Ouais.
C'est quand même
pas là trop en ce moment.
Vous allez encore nous mettre la FC Palworld sur le dos. Bravo, monsieur.
Oh, c'est bon, maintenant ils sont éteints, c'est bon.
C'est le FC Palworld, comme diraient les Marseillais. Palworld, Palworld. Non, voilà.
Après, juste deux secondes, pour relativiser sur Twitch, par exemple, oui. Toi, il est à peu près au même niveau Genshin Impact. Il a pourtant imprime ouais. Pas mal d'argent, quoi.
Ouais, mais il va continuer à baisser, c'est sûr et certain. J'y mets ma main à couper.
Allez, finito le jeu.
Tout ça pour revenir sur Helldivers 2, qui pour le coup, lui, est sur une pente ascendante, méritée, avec 3 millions d'exemplaires vendus, pardon, et qui dépasse aujourd'hui Counter-Strike sur Steam avec des centaines de milliers de joueurs simultanés, un pic à 457 000 joueurs, ce qui est monstrueux, 70 fois supérieur au premier jeu Helldivers, qui était déjà un jeu incroyable, mais là, on est dans une autre catégorie avec le 2, et j'ai l'impression qu'on répond maintenant à des, ouais, comme je disais, des moments de hype où le jeu a eu un petit succès, puis un moyen succès, puis un énorme succès, avec un effet exponentiel, quoi.
Bah,
vous êtes pas d'accord ?
Si, mais même pour le coup, ça fait partie, je sens effectivement des affects forts, tu vois. La hype, le fait que effectivement tous tes potes jouent à ça, tes streamers préférés jouent à ça, ça crée des sentiments positifs envers le jeu. Alors que, en tout cas, plus que quand on y réfléchit, que effectivement le côté game as service, le côté business model qui suscite pas grand chose, là le fait que ce soit entre guillemets le jeu à la mode, même si ça peut paraître un peu bateau comme ça, ouais. Clairement ça participe à l'engouement autour du truc, quoi.
Ouais, de fou.
Mais c'est un truc de ouf comment Twitch a accéléré ça. Moi j'y vois surtout, t'as un avant et après Twitch où en fait, je sais plus si c'est toi Monique ou Albius qui a dit ton streamer préféré est dessus, et je trouve que ça encourage de ouf les effets boule de neige, en fait, jeu auquel tu joues avec tes potes, plus jeu qui peut être bien bien poussé par des streamers, ça crée une dinguerie, et Helldivers 2, que je vais commencer demain, parce qu'il me tente bien, pas pour son côté jeu service, mais pour le côté promesse d'un jeu coop que tu peux faire avec des potes. Je trouve que c'est un excellent exemple, en fait. C'est un jeu Sony qui a la petite particularité d'être lancé sur PC et PS5. C'est important de le dire également.
Ouais,
quand on parle souvent de la stratégie de Sony, ils sont souvent caricaturés en mode Sony, leur marque de fabrique, c'est les énormes AAA solo. Bah non, ils font également ça.
Bah ouais.
Mais, et j'ai perdu le fil de ma pensée avec cette digression, merde.
Je sais pas,
j'ai perdu
le
fil de ma pensée.
Le streamer préféré, tout ça,
c'est
tout streamer, ça.
Oui, Twitch.
Twitch qui a changé la donne.
Promesse, jouer coop. J'ai perdu ma pensée. Bon, mais voilà, non, mais au moins, ça m'aura permis de dire que la stratégie de Sony, c'est pas que des gros AAA solo, et sur le reste, ça restera un mystère.
Bah ouais, mais même sur les jeux solo, il y avait eu Returnal quand même, qui est un petit peu à part, quoi. Enfin, ils ont quand même quelques petits trucs. Évidemment,
ouais,
ils sont plus
ans.
À l'époque. Ouais, je sais, mais je veux dire, on caricature beaucoup Sony, comme dit Mikael, où on dit en gros, l'époque où ils tentaient des trucs est totalement terminée. Alors oui, mais ça, c'est, on va dire que c'est un état général de l'industrie, mais Sony a encore quelques petits trucs, sachant qu'en plus, Helldivers 2, c'est pas un jeu first party, mais un jeu second party. Le studio s'appelle Eurohead, je crois. Et en fait, ce qui a permis de consolider le rapport que Sony... Enfin, la liberté que Sony a accordée aussi au studio, c'est que le premier Helldivers avait eu quand même son succès sur le long terme, et notamment sur PC. Alors, pour la petite anecdote, il est d'abord sorti sur PS4, puis sur PC, et en fait, c'est sur PC que le jeu a eu sa pérennité. Vraiment, il a duré pendant plusieurs années, avec des mises à jour régulières, etc. C'était une sorte de jeu service avant l'heure, en quelque sorte. Et du coup, bah, Sony a clairement laissé les clés du camion à Eurohead, et leur a dit, faites ce que vous voulez, on vous laisse vraiment le temps de peaufiner votre jeu. Et ils ont mis 8 ans presque pour le faire, et je trouve que ça se ressent. Alors moi, j'ai quelques heures dessus pour le coup, et je trouve que le jeu, c'est une excellente transposition du système de jeu du premier. C'est vraiment, enfin, c'est quasiment du copier-coller. Alors évidemment, ça change tout parce que la caméra est placée différemment. Le premier, c'était un twin stick shooter, donc vu du dessus. Là, c'est un jeu TPS qui va vraiment beaucoup plus se baser sur des rapports d'échelle, etc. Mais en termes de gameplay, ils ont vraiment repris tout ce qui marchait super bien dans le premier, ils l'ont transposé dans le 2, mais ça demande un travail évidemment titanesque. Et ce qui a permis aussi la confiance de Sony, c'est je pense le petit succès d'Steam, puis le succès long terme sur PC du premier, qui leur a aussi donné la confiance pour ce jeu. Et ouais, je pense qu'ils ont bien fait, parce que en fait c'est marrant, tu vois. Enfin, tous les éditeurs essayent de lancer leur jeu service, Sony les premiers, et en fait c'est par l'intermédiaire d'un jeu seconde partie qui probablement n'était pas dans leur calendrier comme une énorme sortie, que cette année, ils vont probablement faire un des plus gros succès de leur année fiscale, quoi.
Alors,
c'est assez ouf.
J'ai un jeu aussi, je pense, qui est intéressant, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui fait un peu la synthèse de tout ce qui est GAS, Sony, et en même temps les gros flops des GAS. C'est Foam Stars aussi.
Ah putain, il est sorti ?
Bah oui.
Donc Foam Stars, l'espèce de Splatoon
de
Square Enix avec de la mousse. Attention à la mousse.
Ouais, attention à la mousse. Hein.
Ah, attention à la mousse, ouais. Je sais pas si tu vois, Mikael.
Attention à la DA aussi. Hein.
C'est ouais. En plus, le jeu a une DA.
Et en plus, je crois qu'il est dans le PS Plus, tu vois.
Ouais, il est dans le PS Plus.
Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Hein.
mais non seulement le jeu a une DA de merde, mais apparemment, il est éclaté au sol. J'y ai pas joué non plus. Hein. Je dis apparemment. J'ai eu des échos de gens qui l'ont essayé. C'est pas terrible, quoi. Donc, non, mais finalement, Sony, ils ont un coup de bol monstrueux avec Helldivers 2,
ouais,
qui est un super jeu.
Parce qu'au même moment, il y a trois trucs qui se plantent, mais un qui perce, comme quoi.
Bah ouais, c'est comme ça. Il y a aussi beaucoup de hasard, en vrai. Il y a une partie de stratégie et de qualité, mais il y a aussi pas mal de chance dans le succès d'un jeu service. D'ailleurs, c'est quand que tu nous rejoins, Monique, là, sur Helldivers 2 ? On t'attend ?
Bon, ouais, je sais pas, ça me fait pas trop envie. Je vois le jeu bouger.
Oh, Monique, je suis anticonformiste, j'ai pas le même avis que tout le monde. Espèce de bouffon.
Ça serait, pour rester sur le bouffon, ça serait vrai si je saignais pas Balatro. Autre phénomène Twitch d'ailleurs.
Effectivement. Si tu veux en placer une maintenant sur Balatro ?
Pour après, je ferai un petit.
Allez. On fera ça dans la partie chronique jeux vidéo. On attaque du coup les dernières actualités de cette rubrique avec le DLC d'Elden Ring annoncé pour le 21 juin. 40€ le DLC, c'est quand même pas mal. En fait, c'est quasiment une suite pour le jeu de From Software. Ce sera la seule extension pour le jeu, annoncé comme le plus gros DLC jamais conçu par le studio. 40€ le jeu
40
base.
Balles, j'espère que c'est le plus gros DLC tout court. Putain.
Ah bah ouais, ils ont pas officiellement communiqué sur la quantité de contenu, enfin sur le nombre d'heures de jeu qu'il faudra pour avoir voir le bout de ce DLC, mais apparemment la zone de jeu sera plus grande ou un petit peu plus grande que la zone de Nécrolimbe, donc dans Elden Ring, qui était la zone de départ, qui est quand même pas mal étendu, avec une dizaine de nouveaux boss, beaucoup de nouvelles armes, des nouveaux styles de combat, enfin globalement pas mal de nouveautés. On accédera à ce DLC par l'intermédiaire du cocon de Mikaela, pour les gens qui ont fait le jeu. C'est à côté du combat de boss de Mog dans le Palais du Sang. D'ailleurs, combat assez incroyable dans le jeu d'origine. La collector coûtera 250 boules, MDR, avec une statuette qui a l'air bien faite, mais bon, faut pas déconner. Moi, j'ai arrêté, j'ai revendu tous mes amiibo. Ça, je l'avais même pas dit. Alors, il m'en reste une petite dizaine. J'ai gardé notamment les Zelda. J'ai revendu ma collection d'amiibo pour 700€.
Waouh.
J'en suis très content.
Oh, le trader.
Ah, il est vrai NFT, hein.
En fait, quand on a pris les deux chats...
Est-ce que
tu as
été imposé sur les bénéfices ? Moi, c'est ce qui m'intéresse.
Je ne l'ai pas déclaré, évidemment.
Quelle honte !
C'est du bonus !
Et ça se dit de gauche.
Non, mais pour les chats, c'était pas ouf d'avoir des figurines qui traînent partout. On leur a fait un peu de place, donc on a vendu quasiment toutes nos figurines, en fait.
T'as remboursé tes chats !
Pour acheter les chats, voilà. Et nos chats, pour les gens qui ne le savent pas, s'appellent Émile et Kainé, et les fans de Nier sauront d'où ça vient. Passons à peut-être un mot sur le DLC d'Elden Ring. Mikawel, toi qui as joué au jeu d'origine, est-ce que ça t'intéresse? Non, je crois que c'est...
Mais j'ai adoré le jeu d'origine. J'ai dû y jouer 30 et 40 heures et j'ai abandonné au bout d'un moment parce que je suis infragile et que c'est un peu trop... J'allais dire trop dur pour moi, mais en fait, je vais me permettre une toute petite digression et qui me fait dire que le vrai sujet, c'est pas du tout la difficulté. Je vous avais dit que j'ai pris le PS Plus, question de tester quelques jeux, et j'avais jamais touché à Returnal, et je me suis dit, vas-y, ça va être l'occasion, parce que j'en entends que du bien. Et en fait, Returnal, ça m'a confirmé dans ce que je savais déjà. Je savais, et je l'ai régulièrement dit dans le podcast, que les jeux d'horreur, c'est pas pour moi, parce que ça me met dans un état d'inconfort, qui est un truc que je peux apprécier quand je regarde des films, mais pas du tout des jeux. Et Returnal, en plus, c'est un jeu qui a la réputation d'être assez difficile. J'y ai pas joué bien longtemps, j'ai pu voir l'ambiance, j'ai pu voir la difficulté. Et en fait, je trouvais le game feel fabuleux, mais ça se voit direct. Je comprends pourquoi le jeu a énormément d'adeptes, mais je me suis rendu compte que c'était pas la difficulté qui me posait problème, c'était l'ambiance un petit peu pesante. Et j'ai du mal à jouer à des jeux qui ont une ambiance pesante. Et en fait, ben je me dis que toute la série des Dark Souls et même Elden Ring,
oui,
s'il y a un petit côté rendez-vous manqué avec moi, c'est parce que l'ambiance est un peu trop pesante, que j'ai du mal à y rester assez longtemps et que la difficulté ajoute une petite tension supplémentaire. Moi, je suis paix, je suis amour, je suis soirée mousse, comme le jeu qu'on a évoqué dont j'ai déjà oublié le nom.
From Stars,
voilà. Et ouais, du coup, c'est pour ça, je pense, que j'ai pas été très loin dans Elden Ring. Donc non, l'extension m'intéresse pas, mais en soi, dans un autre monde, ça aurait pu, quoi, parce que c'est l'enjeu que j'ai kiffé.
Mikawel est calme et volupté, en fait, c'est ce que t'es en train de nous dire.
Je suis un fan de Ratchet & Clank. Partant de là, je pense que tout est dit.
Tout est dit. Mais en réalité, je comprends complètement et ça me paraît tout à fait légitime comme justification.
Oui, je te rejoins, je suis pas trop touché sur le côté Kikou Dark.
C'est ça, j'allais dire, c'est le côté un peu Kikou Dark de pas mal de jeux en vrai qui aujourd'hui ont un certain succès, une certaine aura, parce que Elden Ring, c'est quand même 23 millions d'exemplaires vendus. Je sais plus combien annonçait Monique Consulting à l'époque.
J'avais annoncé les 20 millions la première année. Moi.
Ouais, il les a fait en deux... Non, il les a fait la première année, je crois. Hein.
D'ailleurs, quasiment. L'occasion de remercier l'auditeur qui a fait le fact-checking sur les ventes d'Hogwarts Legacy et Menu Consulting avait bel et bien raison et je m'étais planté. Je suis de bonne foi, je le rappelle, mais glissons de remerciement.
Fair play, hein, Mikawel.
Parce que ça a été fact-checké.
N'hésitez pas à envoyer un MP si vous voulez lancer un jeu service.
Mikawel est très fair play de reconnaître ça et Monique est disponible si vous voulez évidemment faire appel à ses services. Donc on ferme la parenthèse Elden Ring pour en venir à un sujet qui agite beaucoup le monde du jeu vidéo depuis quelques semaines, c'est la perspective de la fin des exclusivités. Alors Mikawel a évoqué la sortie d'Helldivers 2 sur PC, on sait que Xbox avait quelque chose dans les cartons et ça a été officialisé à moitié puisque Phil Spencer, donc le PDG de Xbox, enfin le président de la marque Xbox pardon, chez Microsoft, a annoncé dans une sorte de podcast un peu chelou que des jeux Xbox allaient sortir sur PS5 et potentiellement Switch. Donc ces jeux, ce seront, je crois qu'il y a Pentiment, il y a Sea of Thieves, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort bientôt ? Hi-Fi Rush, effectivement.
Excusez-moi, mais ça fait pas 5 ans que Microsoft a arrêté les exclus, parce que j'en ai aucune en tête.
Mikawel qui met les pieds dans le plat. C'est
la nuisance. Non mais disons les choses clairement.
La nuisance. Il a dit acheter nos jeux Starfield. Starfield, c'est une vraie exclusivité, il a dit.
Ouais, mais tu vois,
c'est vrai.
Typiquement parler de la fin des exclus alors que on parle de Microsoft. Pardon, les exclus Microsoft. Pardon.
C'est un peu une blague. Pardon. Je suis d'accord.
Nintendo dit la même chose, ça a pas exactement.
Exactement.
Même poids, quoi.
C'est ça le
ah
jeu.
Bah, oui.
Le jour où ce sera Nintendo ou Sony qui sortira God of War sur toutes les consoles, on parlera peut-être. Mais en attendant, même si t'as Halo sur Switch, PTDR, qu'est-ce que ça change quoi?
C'est pas faux. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de Xbox, de fans de Xbox qui ont réagi, mais alors au quart de tour, du genre vas-y, moi, je vends ma Xbox, je vais recouvrir mon tatouage de Phil Spencer, j'abandonne tout, j'annule tout, je ne suis plus fan de Xbox, c'est une trahison, c'est un couteau planté dans le dos que Microsoft est en train de nous faire. Non, pour le coup, c'est quand même assez ridicule de voir les réactions.
Des fans ravagés, il y en a de tout.
Évidemment.
Les mauvaises langues diront si en plus t'es fan de Xbox, bref, voilà.
Et les très mauvaises langues diront que vu comment ils réagissent dans la défaite, j'aurais pas aimé être leur pote en 40.
Alors celle-là,
c'était gratuit.
C'est comme dirait le même, c'est escalated quickly là. Putain.
Ah, je suis désolé.
Non, t'as raison. Donc voilà, non, juste pour ça, pour que vous sachiez qu'il y a beaucoup de jeux Xbox qui sortiront sur d'autres machines, puisque Microsoft.
Oui, beaucoup,
bah,
oui.
Bah, ils ont pas annoncé d'autres jeux, mais il est très probable qu'il y en ait plein d'autres qui sortent à terme, et que même Starfield, bon, c'est pas du tout officiel, hein, ce que je dis.
C'est ce que j'allais dire aussi, hein. Là, je viens d'entendre une mauvaise langue qui disait, ça tombe bien, ils sortent que les bons jeux. Bon, bref.
C'est pas faux. Et alors pour le coup, moi je m'attendais à ce que Hi-Fi Rush sorte sur Switch, mais en fait ils l'ont pas annoncé. Donc peut-être pour la prochaine Switch, on sait pas. Peut-être que le jeu était un petit peu trop gourmand pour la Switch actuelle. Je sais pas quelle était la raison de ce choix.
Oh, je pense que ça, c'est le portage, il devait coûter un peu cher à mon avis.
Ouais, probablement. Bon, en tout cas, on espère que le jeu arrivera un jour sur une console Nintendo. Parce que c'est un super jeu en vrai, Hi-Fi Rush. Ça serait bien que d'autres gens le découvrent. Pour revenir encore à nouveau sur Microsoft et Sony, c'est une actualité que Mikael a suggérée dans le conducteur. La question du dématérialisé, les prochaines consoles de Sony et de Microsoft auront-elles des lecteurs physiques ? En France, la part du chiffre d'affaires du dématérialisé atteignait 82% face au support physique qui n'est plus qu'à 18%. J'imagine que c'est en 2023. C'est un article de BFM que Mikael a partagé dans notre conversation privée. Et ça m'a choqué en vrai, j'étais assez étonné de ce chiffre-là. Et Monique faisait la remarque très juste que le mobile y était peut-être pour quelque chose.
Le mobile et même le PC et les abonnements. C'est un chiffre, comment dire, qui est un peu dur à... Comment dire, c'est difficile à digérer comme chiffre, parce que par exemple,
interpréter et à mesurer, oui.
Ouais, voilà, parce que ça se trouve, FIFA, il fait plus d'argent en démat, certes, mais dans les faits, peut-être que les exemplaires physiques, ça représente une plus grosse part en termes d'utilisateurs.
Ouais, parce que là, c'est le chiffre d'affaires dont on parle. Hein.
Ouais, c'est pour ça que c'est un peu tricky.
Mais au-delà du chiffre, moi, ce que j'avais trouvé plutôt intéressant, c'était les déclarations du côté de Microsoft qui disaient que non, ils n'allaient pas jeter le support physique du jour au lendemain, mais on se rend compte qu'il y a une tendance de fond qui est assez massive, que globalement, quoi qu'en disent les constructeurs, le support physique, ça leur casse les couilles, parce qu'il y a l'occasion, parce qu'il y a un moins bon contrôle de la distribution des jeux, parce que t'es obligé de lâcher une partie de ta marge, il faut évidemment le rappeler.
Bah oui,
et
oui.
Moi, la vraie interrogation, c'était celle qu'a balancé Olbius en introduction. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que même au niveau des consoles, si tu prends la PS5 et la PS5 sans lecteur, bah, les versions sans lecteur se vendent bien, elles sont moins chères, c'est incitatif. Moi, j'ai des vraies interrogations sur la prochaine génération de consoles, j'allais dire de Sony et Microsoft. Microsoft, ça va peut-être plus fonctionner par... itération et amélioration que des grosses vagues de consoles next-gen. Nintendo sortira dans pas si longtemps, donc elle aura forcément un support physique. Et en plus, Nintendo, je sens qu'ils seront un peu plus longtemps que les autres là-dessus. Mais c'est peut-être pour la PS6 où vraiment il y a une interrogation qui mérite d'être posée, je trouve.
Ouais, de fou. Bah, notamment parce que, enfin, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, comme l'a dit Monique avec tous les systèmes d'abonnement, je crois que sur Xbox, c'est déjà le cas, en fait. La majorité des ventes et de chiffre d'affaires se fait sur le démat. Chez Sony, on sait pas trop. Nintendo, c'est à part, pour le coup. Mais souvenez-vous, Microsoft il y avait eu un leak quand il y avait eu l'affaire du rachat de Activision Blizzard. Et on avait appris à ce moment-là que Microsoft allait sortir en 2024, normalement, une console de niveau de la Xbox Series X, donc une nouvelle Xbox Series X, mais sans lecteur CD comme la Xbox Series S. Parce que pour rappel, Xbox a déjà une console sans lecteur CD. Et la console du côté de chez Sony, effectivement, on n'a pas tout à fait les chiffres officiels, mais à en croire les infos qu'on peut trouver, elle se vend plutôt pas mal. Donc oui, c'est une vraie question. Et pour le coup, moi, ça me ferait quand même énormément chier de plus pouvoir passer par le système physique, ne serait-ce que pour les prix. On l'a déjà évoqué plein de fois dans cette émission. Les prix, l'occasion, enfin, il y a beaucoup d'avantages quand même au format physique encore aujourd'hui. Les quoi, pardon ?
Le prêter les jeux aussi.
Prêter des jeux, évidemment. Enfin, c'est, y a beaucoup, beaucoup de petits trucs qui font que c'est quand même... Enfin, pour des gens de notre génération, c'est encore un truc auquel on est attaché. Maintenant, je vois quand même dans mes usages que... Je sais pas si c'est plus de la moitié, mais je pense une bonne grosse partie de mon temps de jeu, c'est du démat. Ne serait-ce que les jeux PC, bah oui, c'est que du démat. Même sur console, bah, je joue parfois à des jeux qui sont en système d'abonnement via le Game Pass, qui sont sur le PS Plus. Enfin, mine de rien, même sans être particulièrement ouvert à l'idée et content de cette évolution, bah, dans nos usages, vous en êtes forcément rendu compte, mais le démat prend de plus en plus de place, même quand t'es pas forcément un client du truc au départ, quoi.
Je suis assez... alors moi aussi, je pensais être largement plus démat que physique, au final. Néanmoins, j'ai l'impression que, comment dire, certains constructeurs, certains éditeurs poussent un peu vers le démat pour avoir plus de contrôle sur la chaîne de production, de distribution en tout cas. Néanmoins, je pense là où il y a un danger... Enfin, là où il y a des opportunités qui vont se perdre, c'est que typiquement, tu sais, c'est pour faire de l'acquisition de nouveaux joueurs, le fait d'être en supermarché, genre par exemple la Switch, je serais curieux de voir par exemple la répartition des ventes de Fortnite en fonction des plateformes. Alors tu vois, je pense que sur Switch, là, le gamin il a acheté la console avec Mario Kart, voilà, au supermarché, il l'a eu à Noël, très bien. Quelques années après, il devient ado, il joue à Fortnite avec ses potes pendant des années. Bah, tu sais, mine de rien, ça représente beaucoup d'argent. Et au final, cet argent, il est fait parce que la console a été dispo en supermarché, en hypermarché et tout ça, quoi. Donc, tu vois, mine de rien, il peut y avoir aussi des, il y a des opportunités à perdre aussi, de perdre la présence en linéaire. Et, mine de rien, c'était aussi un truc qui était très important chez Nintendo. Même à l'époque de la Wii U, les rayons de Nintendo étaient souvent plus grands, même que Xbox, et Nintendo négociait. Alors, j'avais eu ça d'écho avec un revendeur et quelqu'un qui travaillait dans une chaîne de boutiques de jeux vidéo, qui expliquait que typiquement Nintendo négociait d'avoir pas mal d'espace en linéaire, même si la console elle vendait pas beaucoup de jeux et tout machin, mais comment ils justifiaient ça ? C'était par exemple avec les Amiibo, parce que les magasins margeaient beaucoup sur les Amiibo.
Sur là-dessus, c'est pour ça aussi que je parlais du côté incitatif qui me semblait ultra important. Et pour moi, en fait, sur les consoles avec et sans lecteur, plus que l'hypothèse d'avoir une version de la PS6 sans lecteur auquel je crois, moi, ce que je crois vraiment... c'est que tu vas avoir une version lecteur qui va être là purement pour ce que tu dis. Je m'explique. Tu vas pas avoir le droit... Je vais faire des images un peu cheloues, mais je pense que vous allez voir où je vais en venir. T'as pas le droit, dans plein d'événements sportifs, de faire de la pub pour des boissons alcoolisées, mais pas de problème, tu vas faire une pub pour ta Heineken 0% d'alcool.
Classique.
En fait, tu sais très bien que... tu sais très bien que c'est un cheval de Troie qui sert à faire de la pub pour la bière avec alcool, mais voilà, tu mets ta marque. Aujourd'hui, t'as plus le droit à la télévision de faire de la publicité pour les voitures thermiques. Par contre, tu vas avoir une pub pour la Peugeot i208 qui est aussi disponible en thermique et il y a un côté cheval de Troie une nouvelle fois. Je pense que demain, c'est pas impossible qu'en fait, t'aies une version avec lecteur qui soit là pour dire « Eh, vous inquiétez pas, vous avez une version avec lecteur », mais que sur tous les autres aspects, que ce soit mode de distribution des jeux, mais quand je dis mode de distribution, c'est au sens large, hein, c'est-à-dire également avec des abonnements type Game Pass ou ce que fait le PS Plus Premium ou Extra, que ce soit à travers le prix de la machine, on va tout faire pour te pousser à aller sur les versions des maths. Et moi, c'est dans ce sens que je le sens, c'est qu'on va te dire, ah, vas-y, on te laisse le lecteur, mais pour une version qui sera une version ultra minoritaire, quoi.
Ouais, l'analogie avec les pubs pour la bière et les voitures, c'est hyper parlant.
Bien vu.
Franchement, ouais, vraiment bien vu. Je trouve ça assez, assez illustre. Enfin, ça illustre bien le truc. Et en vrai, le sujet est loin d'être refermé, puisque bah, on va continuer à avoir cette évolution dans les années qui viennent. Peut-être, si vous êtes chaud, on peut passer à la dernière news de cette rubrique actualité. C'est Shin Megami Tensei 5 Vengeance qui a été annoncé pour le 21 juin, soit le même jour que le DLC d'Elden Ring. Il va falloir faire un choix. Sur PC, Xbox, PS5 et Switch, évidemment, la plateforme d'origine du jeu. Donc c'est quand même pas un petit truc, hein, SMT5 Vengeance, c'est une nouvelle route annoncée pour le jeu, c'est-à-dire bah, 80 heures de jeu annoncée, mais grosso modo des interviews que j'ai pu lire et des communiqués de presse, c'est surtout la deuxième moitié du jeu qui verra des gros changements sur le scénario principal. Pour la première moitié, ça sera sensiblement la même chose. Mais quand même, moi c'est un jeu que j'avais adoré, SMT5. Globalement, je trouve que c'est un jeu qui était ultra intéressant aussi sur ses thématiques, et je suis curieux de voir ce qu'ils vont rajouter justement dans cette nouvelle version, dans cette vision alternative en gros du scénario du jeu, et peut-être aussi le plaisir de pouvoir refaire le jeu, si jamais le temps le permet, sur une machine qui fera tourner en 60 fps avec une belle résolution. Ce jeu qui tournait quand même un petit peu... on sentait que la Switch était vraiment à bout de souffle, quoi. Elle était un peu à genoux, la console, donc ça va faire plaisir de d'y jouer sur PC.
Un peu à bout de souffle, mais pour le coup, chez moi, ça tournait... Enfin, ouais, c'est bien, ça tournait quand même correctement.
Oui, oui, c'était jouable. J'ai fini le jeu sur Switch, hein, donc
oui, même,
tout à fait
même
jouable.
Le jeu était plutôt joli et tout.
Ah, c'est magnifique, moi, je trouvais sublime.
Le seul point à voir, c'est est-ce qu'il va falloir repayer 60 balles ? Parce qu'on parlait des DLC à 40€ en mode... Ouais, bah non, là, si par contre... Enfin, ça va dépendre, on va dire, du tarif et de ce qu'il y a dedans. Mais a priori, je suis plutôt chaud. Genre, s'il y a une petite version à 20 balles ou 30 balles sur... pour upgrader ta version originale.
Depuis la version Switch que tu as déjà, ouais.
Ça serait sympa, sinon, oui, au pire, ça sera refait sur PC, quoi.
Oui, l'occasion d'une solde, le jeu sera probablement à un prix correct. Mais effectivement, c'est un point qui n'a pas été, je crois, hein, à ma connaissance, en tout cas, ça n'a pas été éclairci par Atlus. On ne sait pas s'il y aura moyen d'upgrader sa version, comme le fait, par exemple, Sony sur... Bah, ces versions remaster ou sur Ghost of Tsushima, il y avait eu le cas par exemple avec le DLC, tu pouvais
après,
juste payer 10€ quoi.
Après, vu Persona 5, bon, a priori.
Ah ouais, en effet.
A priori, ils vont nous dire d'aller nous faire voir, mais bon.
Ouais, je pense que c'est un peu parti pour ça malheureusement. Je sais pas si Mikael t'avait joué à Shin Megami Tensei 5, du coup.
Pas du tout.
Alors, je sais que. Côté JRPG, c'est un jeu qui pourrait te plaire, mais alors l'ambiance va pas te plaire. C'est un jeu qui a une ambiance, mais assez pesante pour le coup du début à la fin.
Mais après, je sais que la DA adoucit un peu ça, enfin dans le sens où, bah, ne serait-ce que le fait de pas être dans un style ultra réaliste et tout, ça me détend un peu.
Je dirais, et pesant, c'est un grand mot quoi. Quoique, ouais, mais mécaniquement, c'est un jeu qui, même si là ils ont rajouté des sauvegardes un peu partout. Aussi.
Ah oui, j'ai vu qu'il y avait eu ouais. cette concession faite pour les joueurs novices à la modernité justement de pouvoir sauvegarder. En plus, pour rappel, Shin Megami Tensei 5, c'est un jeu qui avait déjà un mode facile dans sa version d'origine. Donc si jamais vous avez peur de la fameuse difficulté légendaire de SMT, en vrai, ça va. Franchement.
Ouais. Et même celui-là, il est pas bâtard, même comparé au 4. Le 4 qui était déjà pas non plus horrible, mais non, celui-là, mais un peu bâtard sur la difficulté, celui-là, il n'y a pas trop de trucs bizarres, quoi.
Non, franchement, le jeu est globalement, c'est assez fluide comme expérience, il n'y a pas de grosses frictions, en tout cas sur la difficulté. Je crois qu'on a fait le tour des actualités,
On espère quand même avoir éventuellement des nouveaux environnements.
Ouais, bah ils ont annoncé qu'il y avait une nouvelle zone. Alors est-ce que ce sera le désert mais en une nouvelle couleur?
Est-ce que ça va juste être encore un soft color? Bon.
à voir s'ils ont taffé un petit peu un nouvel environnement. Ça serait bien. Franchement, ça ferait plaisir.
Après, l'illusion a fonctionné quand même, je trouve, dans le jeu original.
C'est ce que j'allais dire, que ça crée quand même de la diversité. Et puis on est un peu méchant parce qu'il y avait quand même certains endroits qui avaient un peu leur personnalité. Je pense à l'espèce de forêt là où il y a les elfes. Je sais pas si tu vois le...
Oui, oui, très bien, mais c'est vrai que quand même 80% du jeu, c'est du sable et du béton.
Oui, oui, oui.
Mais...
C'est un peu... Ouais, c'est un peu redondant.
Mais vu le travail des lumières et de la... je trouve qu'ils s'en sortaient quand même extrêmement bien. Mais,
oui,
bon.
Le jeu est beau. Hein. Non, puis les chara-designs sont toujours aussi cool.
Oui, après...
Enfin, c'est du SMT, quoi.
La DA tabasse, quoi.
Ouais, franchement, c'est vraiment un des plus beaux jeux de la Switch, pour le coup, je trouve. SMT5. Bien, passons maintenant à l'entracte ludique. Je vous ai préparé un crossover des deux jeux qu'on fait habituellement dans le podcast, à savoir le jeu du sens critique et le jeu de ChatGPT.
Ah
donc
ouais.
Là, l'idée,
il y a
l'idée,
des
ça
points
va
bonus
être...
si on trouve si c'est sens critique ou ChatGPT.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Mon Dieu.
J'ai mélangé des critiques issues de sens critique et des critiques que j'ai fait rédiger à ChatGPT, et le but, ça va être donc de trouver à la fois le jeu dont il est question et évidemment si c'est un humain ou l'IA qui a écrit cette critique. Eh ben, écoutez, si ça vous va, on peut commencer tout de suite.
Alors
avec...
juste petite question, du coup, ça se passe comment ? Admettons que Monique trouve, il va dire God of War ChatGPT. Est-ce que j'ai le droit de dire si je pense que c'est sens critique ou ChatGPT quand même ?
Alors, je propose qu'on commence par deviner si c'est ChatGPT ou sens critique, et qu'ensuite on balance le jeu, si ça vous va.
Ok.
Allez.
Ça vous va ou let's go ?
Allez, allez.
C'est un
parti,
peu le test
kiki.
De Turing.
Exactement, c'est ça. Alors, la première critique. Ah, ce jeu qui a fait couler tant d'encre, ou devrais-je dire tant de pixels.
Sens critique, déjà.
Bah oui, forcément.
Eh bien, c'est ChatGPT.
Oh putain.
Oh là là.
Oh là là, les
Terminator,
machines vont nous remplacer.
Et en plus, alors là où vous allez être vraiment choqués...
Ah, et moi j'aurais mis ma main à couper.
Bah, Carole s'est fait avoir, mais vraiment de la même manière que vous. Et le truc qui est hallucinant, c'est que c'est un prompt. J'ai même pas eu besoin de lui demander de re-rédiger des passages ou quoi. Je lui ai juste demandé, fais-moi la critique de ce jeu-là avec un ton un peu ironique. Je lui ai demandé ça. Et il m'a fait directement ce texte. Donc, je reprends la critique. Vous êtes fait vraiment niquer par
totalement, là.
L'intelligence
les
des machines.
Les pigistes de JV en PLS.
Donc, ce jeu qui a déchaîné les passions des fans pendant des décennies. Permettez-moi de me plonger dans cet océan de héros aux cheveux piquants et de vous offrir une
FF7.
Critique. Exactement. Bravo, Mikael. Oh, putain. Il rajoute après Final Fantasy VII, ce jeu où les cheveux de nos héros sont plus pointus que leurs épées. Je trouvais la formulation pas mal.
C'est vraiment
vrai...
très bien mal écrit.
Ouais, exactement. Ça fait très journaliste jeu vidéo un peu nul, quoi.
En plus, sans
critique. C'est ce que j'allais dire. Ça me rappelle des vraies critiques que j'ai eues sur les sites pro.
C'est un truc de ouf, hein. Genre, tu lui dis. Après, il parle des graphismes. Il fait ah, les graphismes. Des personnages en pixels qui ressemblent à des bonhommes Lego sous stéroïdes. Et des cinématiques qui donnent l'impression d'avoir été transportés dans un univers où la surabondance de polygones est presque la norme. Bon, la fin est un peu bancale.
Là, il se pince un peu les tétons en se disant je suis un auteur, quoi.
Exactement. Mais le début, Lego sous stéroïdes, je trouvais que c'était, ça fait vraiment penser à un truc de sens critique, quoi. Donc, du coup, c'est un point pour Mikael, puisque vous n'aviez pas trouvé l'origine du truc. Deuxième critique. Dans cette critique, je mettrai de côté tout le décorum autour du développement du jeu et des atermoiements entourant l'évolution du concept au fil du temps pour me concentrer sur ce jeu en lui-même.
Ça, c'est sens critique.
Sens critique.
Ah.
Ça, c'est bel et bien sens
phrase
critique.
Trop longue. Phrase trop longue pour être du ChatGPT, je trouve.
Ouais, probablement que c'est un peu trop long. Ouais. Dès le départ, ce jeu sent le décalage. C'est une espèce de pérégrination, de balade dans un monde par moments assez joli, mais également plat et vide. Quelques lieux sont réussis, mais on passe surtout son temps à déambuler en voiture ou à pied, dans le cadre de quêtes globalement inintéressantes. On touche ici au plus gros problème du jeu.
Est-ce que c'est Pacific Drive ?
Ah bah non, c'est pas Pacific Drive. On touche ici au plus gros problème du jeu. Comme d'habitude dans ce type de RPG, vous aurez affaire à deux types de quêtes. Les quêtes principales et les quêtes annexes. Les quêtes principales... Bravo, putain, FF15
Ah, mais oui, je trouvais pas la voiture. Bah oui, forcément.
Et effectivement, RPG voiture, il y a peu d'exemples.
Ouais, bien vu.
Donc FF15, ça fait un partout. À moins qu'on fasse un point aussi pour le On va dire qu'il n'y a pas de point pour deviner si c'est ChatGPT ou l'autre, c'est plus rigolo.
Ouais, c'est pour le fun, allez.
Ça fait un partout, et donc on passe à la prochaine critique. J'ai une certaine tendance à m'étendre pour développer, en bien comme en mal, des critiques beaucoup trop longues pour intéresser qui que ce soit. Cette fois, je vais me soigner pour être aussi méprisant que Blizzard l'est envers nous désormais. Ce jeu n'est que...
Sens critique.
Sens critique, tout à fait. Ce jeu n'est que façade et inutilité. Nous ne sommes pas loin du produit malveillant qui a pour seule intention de nous séduire sous une apparence flatteuse.
Diablo
pour
4.
Mieux nous trahir une fois le vernis gratté. Tu disais, Monique ?
Diablo 4.
C'est bien Diablo 4, effectivement. Et c'était un, je crois que c'était un 2 sur 10, un truc comme ça. Et j'ai constaté du coup que beaucoup de gens avaient détesté Diablo 4. Ce qui me paraît quand même un peu étonnant, parce que le jeu est pas nul à chier, quoi. Mais les fans de Diablo ont pas aimé, quoi.
Le jeu a été bien noté et tout, mais oui, le jeu, j'ai l'impression qu'il a été très vite déserté, ouais.
Ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu mort, hein, aujourd'hui.
D'ailleurs, il arrive dans le Game Pass.
Ouais, bah, c'est un des effets du rachat d'Activision, quand même, Blizzard, par Microsoft. Il fallait que ça arrive un jour. Donc, ça fait 2-1 pour Monique. Passons à la prochaine critique. Malgré son aspect addictif et sa capacité à nous faire perdre des heures de vie à cultiver des carottes, ce jeu reste un refuge idyllique pour ceux qui cherchent à s'évader de la réalité.
ChatGPT.
Bien joué, c'est ChatGPT. Bravo,
c'est,
Monique.
C'est le jeu de ferme de ces morts, là. Comment il s'appelle, déjà ?
C'est
mais
quoi ?
Oui, j'ai plus le nom aussi.
Soyons honnêtes. Stardew Valley, c'est ça. Bravo, Mikael.
Ah putain, je l'avais, mais dur.
Mikael, je suis sûr. Monique l'avait aussi, je pense.
Oui, j'avais oublié le nom.
Voilà.
Ah ouais, ben, moi aussi. Mais de toute façon, jeu de ferme, en soi, bon.
Il y en a pas.
C'était évident que c'était ça.
Il y a Farming Simulator aussi.
Non,
mais...
en vrai, il y en a plein, mais c'est ce qu'on les retient pas trop. Mais je sais pas si vous vous souvenez.
Ouais. Colmius sélectionné.
Du Also Game. Non, comment ça s'appelle ?
Harvestella, qui avait eu une sortie l'année dernière, je crois.
Non, le truc de l'E3, là, les jeux Wholesome Game, là, machin.
Oui,
il y a plein de jeux de ferme.
Ouais, mais ils ont tous bidé, je crois, parce qu'on en a entendu parler d'aucun.
Ouais, mais genre, t'en as retenu un seul, là. Il y avait un milliard de jeux avec des animaux mignons et de la ferme, quoi.
Ouais, c'est ça.
La FNSEA, hein, voilà. Hein.
Bah, c'est les gens qui essayent de faire Animal Crossing, quoi. Animal Crossing cross Stardew Valley, quoi. Dernière critique, je propose de commencer tout de suite. Me voilà devant vous pour un exercice ô combien périlleux. Je dois vous expliquer pourquoi je considère ce jeu culte comme l'une des expériences les plus ennuyantes de ma vie. Rien que ça. Le scénario est une injure au monde du jeu vidéo, tant il ne sert à rien et n'existe pas. Les trois quarts du jeu consiste à retourner là où on est censé arriver au départ. Et tout ce qui suit n'est qu'une série de mésaventures qui nous poussent à nous balader à droite et à gauche.
Ça, normalement, c'est Bravely Default sur Sens Critique.
Alors, c'est pas Bravely Default, mais c'est bien Sens Critique. Autrement dit, pas d'objectif dans ce jeu, pas de but. Juste un binoclard qui se fait réveiller pour vagabonder à droite et à gauche, histoire de tuer le temps au final. Je vous vois venir. Un jeu, ce n'est pas qu'un scénario. C'est aussi des phases de jeu, des batailles enragées et nerveuses, des énigmes riches qui font travailler notre cerveau, si beau et si complexe. Il n'en est rien. Approximativement 90% des phases de jeu sont uniquement là pour promouvoir le moteur physique surpuissant du jeu.
Ah, je l'ai.
Pour l'époque.
Half-Life.
Ouais.
Exactement. Putain, bien joué. Bah, c'est vrai que le côté moteur physique...
On l'a eu en même temps, je pense.
Ouais,
en
ouais,
tout
c'est
cas,
ça.
Je crois que ça fait du coup 2 partout, un truc comme ça. À moins que j'en ai trouvé...
Non, je crois que c'est 3-2 pour Mikael.
Pour une fois Mikael. Que j'ai une victoire.
Eh bah, bravo
Mikael. Ne me l'enlève pas.
Ah non, bravo, ça arrive une fois tous les 3-4 épisodes, donc il faut le saluer.
Ah, et encore, t'es gentil.
Ouais,
il y a eu besoin de Stardew Valley et de FF7. Hein.
C'est vrai que là il y a eu un rééquilibrage à la part de l'arbitre.
Ouais, non, mais je les ai même pas choisis par rapport à Mikael. Hein. C'est juste que, bon, FF7, parce qu'on a parlé de FF, et Stardew Valley, figurez-vous que j'y ai joué un petit peu avec Carole. Mais bon, on n'a pas trop accroché au jeu, ça a l'air vraiment très long. Donc j'ai choisi pour ça, en fait.
Un jeu pas... qui, dans son édition physique sur Switch, a un livret. Je n'en connais aucun autre.
C'est un truc de ouf, ouais. C'est, j'en connais pas d'autres.
Alors, il y a un mini livret dans World Zine Club.
Mais oui, ah mais oui, c'est vrai.
Vendu comme un artbook, le machin, il est minuscule.
Il présente les personnages, quoi. C'est
ça.
Donc, victoire de Mikael, c'est la fin de cet entracte ludique. On va pouvoir passer au gros morceau de l'émission, à savoir les chroniques et notamment Like a Dragon, Infinite Wealth, juste après la petite musique. Bien, maintenant, on va parler de jeux vidéo dans notre podcast jeux vidéo avec, bah, je le disais, le gros morceau de cette émission, Like a Dragon Infinite Wealth, la suite directe de Yakuza Like a Dragon, sortie en 2020, qui avait révolutionné, ou en tout cas qui avait opéré une transition de la licence Yakuza. Un pivot, tout à fait, vers plus de RPG, hein, puisqu'il y avait déjà du RPG avant, on l'a déjà évoqué dans cette émission. Là, le jeu est passé à du JRPG traditionnel, combat au tour par tour et tout ce qui s'ensuit, progression de personnages, etc. Donc, Like a Dragon Infinite Wealth, la suite directe hein, du jeu, qui est pas du tout un bon épisode pour commencer la licence Yakuza, mais qui est un jeu qu'on a adoré, je pense, tous les trois. Moi, je suis quasiment à la fin, je suis au chapitre, fin du chapitre 13, donc il me reste, je pense, 2 ou 3 chapitres, un truc comme ça. Je sens que c'est vraiment, j'approche de la fin, quoi. J'ai 80 heures sur le jeu, je suis parti en couille hein, sur ce jeu.
Et t'es parti en couille sur quoi ? Parce qu'on en parlera, hein, mais.
Je dois malheureusement faire cette confession. Je suis parti en couille sur les Sujimon et sur le mini-jeu Animal Crossing.
Waouh !
Bah, en vrai.
L'île d'Ondoku m'a aspiré. J'y ai passé genre 7 heures dessus.
Ah mais moi aussi, mais je l'ai terminé, hein. J'ai terminé les deux, mais en fait je trouve que t'as pas tant matière que ça à passer non plus 20 heures dessus.
Non,
une fois
non,
que t'as le complexe 5 étoiles, 3 étoiles, je sais plus, 5 étoiles je crois.
C'est 5 étoiles, ouais.
Tu l'obtiens, t'as mis une petite fin scénarisée, donc partant de là, emballer c'est peser quoi.
Oui, j'ai bien aimé aussi.
Hein.
Au final, j'ai trouvé ça assez sympa, même s'il y a des petits soucis d'équilibrage et de conception, mais en vrai, enfin, je suis parti en couille sur le jeu.
Artistique aussi.
Oui aussi, oui. Mais enfin j'ai fait quasiment toutes les quêtes secondaires, j'ai fait quasiment
ah
tous
ouais.
les mini-jeux. Non mais
quêtes secondaires elles sont FedEx Osef, j'en ai fait une petite dizaine à tout casser. Mais
il y en a des biens. Franchement dans l'eau il y en a des vraiment vraiment cool.
Ouais non mais il y en a des biens parce qu'au cours de ta cutscene toute pérave t'as une ligne de dialogue bien écrite. Mais tu vois ça reste quand même. Ça reste quand même des quêtes secondaires qui nous renvoient 15 ans en arrière.
Alors,
parfois bien écrites avec une petite blague qui passe bien, Mais alors franchement, en termes d'ambition, en termes de mise en scène, en termes de structure, je n'accepterais pas qu'on me dise que c'est autre chose que des quêtes secondaires qu'on voyait il y a 15 ans.
Et ben moi, je tape du poing sur la table et je m'insurge.
Elles ont des petites idées, quoi.
Et je m'insurge parce que pour le coup, je trouve qu'on a fait... Alors déjà, le 7 avait fait un glow-up par rapport aux quêtes secondaires. Mais alors là, le 8, pour le coup, ils sont encore allés au-dessus. Alors certes, il y a du FedEx... Il y a mais il m'a mal parlé, et tu as juste fait un combat aux F.
Il y en a une sur deux qui est un peu au FedEx quand même, hein, faut le reconnaître.
Certes, il y en a des comme
en
ça.
En fait, moi je dirais plutôt qu'il y en a 8 sur 10 qui sont FedEx, quoi.
Oh. Ah,
t'es mauvaise langue, parce qu'il y en a quand même beaucoup où ils sont quand même fait un peu chier à essayer de faire un peu du gameplay un peu alternatif. Je pense typiquement à celle du petit Tommy vendeur de limonade.
De ouf. C'est très dur d'ailleurs au bout d'un moment.
Ouais, exagère pas non plus.
Ah, quand tu dois livrer à je sais plus combien de personnes.
Oui, t'as une espèce de mini-jeu où il faut te déplacer tout lentement entre des personnages pour distribuer de la limonade. T'as ça, t'as celle du show télé où c'est de l'infiltration. Pas très bien branlé, c'est vrai.
Mais ça renouvelle le gameplay, c'est quand même très cool, je trouve.
Ouais, il y a ça, il y a celui où tu fais le petit job de serveur, où tu dois prendre les commandes, retenir les commandes.
Je t'accorde effectivement qu'il y en a pas mal qui proposent un gameplay alternatif. Et
t'as le Tinder aussi. Le Tinder est incroyable.
Ouais, non, mais alors justement, ça pour moi, c'est de l'activité, c'est pas de la quête secondaire à proprement parler, tu vois.
Ouais, mais ça se développe.
Mais c'est vrai que t'as beaucoup de... Ouais,
ah
non, c'est de la merde.
Ouais, merci.
Moi, j'ai trouvé très rigolo à la fin le fait que tu assommes de compliments et que tu vois le mec qui t'as la petite cinématique où il clique comme un taré. Il y a quelques bonnes idées. Mais sur les quêtes secondaires, j'avoue, j'ai été mauvaise langue. Mais celles qui sont cantonnées à un gameplay classique, elles sont vraiment claquées au sol.
Oh, disons qu'il y a un petit effort de mise en scène. Pas de mise en scène, mais de mise en situation.
Après,
je dirais plutôt ça.
Là où je retiens Mikael, c'est que effectivement, faut rester lucide et respectueux de son temps. Voilà, faut pas toutes les faire. Faut lire un peu. Est-ce que ça a l'air sympa? Et des fois, t'es agréablement surpris. Voilà.
Voilà. Mais disons que j'ai confessé que j'étais parti en couille. Je l'assume.
Oui.
C'est pas quelque chose de raisonnable et je conseillerais pas à quelqu'un qui veut découvrir le jeu de faire toutes les quêtes secondaires ou de faire tous les mini-jeux. C'est complètement con. Mais je sais pas, le jeu m'a inspiré. Je trouve qu'il y a quand même un truc dans le jeu a cette espèce d'ambiance qui me faisait genre trop du bien quand j'y jouais. Et du coup, j'avais envie de passer du temps dessus et du coup, j'ai passé vraiment du temps bêtement à faire les trucs pas intéressants du jeu, mais juste pour être dans le jeu.
Bah, je pense qu'on est tous les trois dans le même cas, parce que moi, pour le coup, c'est plus l'aspect combat que j'ai retourné dans
tout
le genre.
Tout est bien.
Ouais, ça touche à des limites, on va dire, quand même,
vrai,
assez vite. Mais
on va attaquer sur la partie un peu plus concrète et centrale du jeu. Son scénario principal, ses combats, on va dire le cœur du jeu.
Avant de trop spoiler, mais oui, rapidement sur les combats. Je crois que dans le podcast, j'avais dit « S'ils en font un bon RPG, c'est le jeu de la décennie ». Bon, ils sont pas... Comment dire,
c'est un meilleur RPG que le 7, mais c'est pas un très bon RPG quand même.
On n'y est pas encore au poulet ultime. Voilà, on a fait encore atteint le stade parfait. Notamment, je trouve, alors plus que le côté RPG où là, par exemple, on comprend beaucoup mieux les placements. Ils ont réussi à en faire une vraie mécanique de gameplay. Là où c'était quand même assez hasardeux dans le 7, mais c'est pas encore très clair. Les zones d'effet, elles sont pas claires. Dans le bonus, je disais que dans FF, je comprenais pas trop l'efficacité des... Comment ça marchait, l'efficacité des sorts et tout.
Oui, les chiffres, quoi.
Dans celui-là, alors, c'est moins pire que dans FF, mais c'est pas clair. Notamment, genre, par exemple, t'as deux sorts qui sont genre en normal, qui ne tapent qu'une cible, par exemple. Normal en termes d'intensité, je veux dire. Qui tapent qu'une seule cible. Les deux sont en faiblesse, les deux ont le même coup de mana, les deux vont faire des dégâts différents. Alors, effectivement, tu regardes que te marque faiblesse, mais en fait, il y a des faiblesses hautes, des faiblesses basses. Ok.
Oui, et puis t'as des niveaux, enfin même, je pense que t'as un curseur, c'est une jauge.
Mais ça, c'est pas très clair, mais aussi...
C'est pas dit dans le jeu, ouais.
Mais aussi, il y a d'autres trucs où il n'y a pas de faiblesse mis en compte, où t'as vraiment deux attaques du même type, du même coup de mana, de la même intensité... qui tape une cible tout pareil, ça fait pas les mêmes dégâts.
Ouais, ouais, non, mais ça, je suis d'accord que c'est un peu claqué. Non,
donc déjà, ça, c'est un problème.
Mais t'as des résistances qui sont pas explicitées dans le jeu, hein. C'est évident, je pense.
Parce qu'en, non, parce qu'en fait, c'est ça, c'est en fait, t'as des, si je me souviens, c'est en pourcentage, les résistances, et c'est passé un certain pourcentage que ça va passer en résistance ou en faiblesse.
Ouais, d'accord, ok.
Ce qui est pas très clair.
Non, c'est pas dit.
Et donc voilà, il y a le problème de pas très clair. Et après, ouais, les autres petits soucis de la partie RPG, pour moi, c'est au niveau de la qualité de vie, où typiquement, les donjons permettent de récolter du matériel pour crafter des armes. Le truc pour crafter les armes, il est à l'autre bout de la ville. Donc ça, c'est une catastrophe.
Ah, mais il y a quand même du fast travel. Hein.
Fast travel, mais bon. Et c'est vrai qu'ils jouent sur PC, et même sur PS5, les temps de chargement, c'est pas un problème. Néanmoins, tu te dis juste, attends, fallait que j'en achète 15, ou fallait que j'en achète 30, des trucs pour telle arme. Donc, tu fais, t'as quand même beaucoup d'allers-retours comme ça à
oui,
taper pour pas grand.
Oui, je suis d'accord.
T'as quand même ça, enfin, ça c'est un peu désastreux. Et aussi, l'autre truc désastreux, c'est l'interface où, les items, ils ont un ordre arbitraire. Tu peux pas les classer arbitraire, pas vraiment, mais on va dire, c'est plus ou moins par type, plus ou moins par puissance, mais des fois il y a des items qui font les deux, et ouais, voilà, t'as pas d'option de tri là-dessus, et du coup c'est un peu laborieux de naviguer dans les menus. T'as beaucoup de jobs, tu peux pas switcher, enfin t'as pas de preset pour switcher entre les jobs, et même alors c'est pas forcément sur la partie RPG, mais pareil sur les quêtes secondaires, t'as pas la possibilité de les classer, de voir à quel niveau est recommandé pour telle ou telle quête secondaire. Donc, bref.
Ah,
voilà.
Mais là-dessus, moi, il faut que j'en parle. Si on continue la petite série de trucs qui...
Sur la qualité.
Qui font que c'est un jeu qui... Ouais, qui manque un
quand
petit
même,
peu de polish.
On a globalement aimé le jeu, parce que là, on attaque sur les critiques et tout.
Justement, on ira sur le poulet après, mais justement, c'est important de balayer un peu tout ça. Moi, l'aspect RPG a complètement été pété au niveau de la thune sur un truc tout con. C'est que moi, tu mets à dispo les combats de Sujimon, ben j'ai envie de tout faire. Ce qui fait que j'ai été supra riche dès le début du jeu. Mais alors un point que j'ai niqué toute l'économie du jeu. Donc ça, tu donnes un moyen au joueur, tu lui dis, vas-y, lance-toi là-dedans. Tu te lances là-dedans, tu casses le jeu, t'es en mode azut. Et justement, sur l'indication des niveaux de quête, je vais faire un très micro spoil, pas scénaristique ou autre, je vous rassure. À la fin des combats de Sujimon, t'as un vrai combat, pour le coup. Et ce vrai combat, il te demande d'être aux alentours du niveau 30. Sauf que moi, vu que, à partir du moment où on m'a mis les combats de Pokémon, j'ai fait que ça. Ben, au moment où j'avais un combat de niveau 30, j'étais niveau, j'en sais rien, 15-20, je l'ai plus en tête, mais je me suis fait massacrer. Et on retrouve la fameuse critique de Monique, il n'y a pas d'indicateur de niveau. Et ça, c'est terrible quand t'as un jeu qui propose des quêtes, que t'as des ennemis qui ont des niveaux et que t'as pas d'indicateur de niveau. Aïe, aïe, aïe.
Alors attends, là où je trouve que c'est un problème, l'indicateur de niveau, c'est que c'est pas sur les quêtes secondaires. Parce que dans la rue, on te dit les ennemis qui sont trop forts. Dans la quête principale...
Oui, je te parle des quêtes.
Ouais, dans la quête principale, on te l'indique, mais pas dans la quête secondaire. C'est là où...
Oui, on est d'accord, oui.
C'est là où en plus ça fout le seum, quoi.
Alors que sur les quêtes principales, non seulement ils te donnent un niveau, mais c'est la première fois que je vois ça dans RPG, ils te donnent un niveau d'équipement recommandé.
Oui, ça évite aussi le problème qu'avait le 7 de certains pics de difficulté
à Osaka,
qui sont pas annoncés.
Ceux qu'on jouait sans
souvenir. Est-ce que je peux me permettre de faire une micro-digression? Vous avez parlé des déplacements rapides. Alors moi, je m'en fous parce que j'étais riche comme Crésus. Mais en fait, t'as un petit, je sais plus comment on appelle ça, un truc pour te déplacer sur deux roues.
Un Segway.
T'as un Segway qui coûte 300 balles à recharger. Et à côté de ça, t'as le déplacement rapide qui te coûte 10 balles. Ça n'a aucun sens de payer la recharge du Segway.
10 balles, c'est quand tu utilises le curseur de la minimap. Mais si tu es à côté d'un taxi et que tu lui parles, c'est 4$.
Oui, donc en fait, le Segway est un luxe au début du jeu qui n'a aucun sens.
Alors l'avantage du Segway, c'est que quand t'es ton objectif est pas juste à côté d'un taxi, tu peux juste sélectionner l'icône sur la minimap et après t'as du déplacement automatique, ce qui fait que tu peux faire fumer une clope.
Ouais, mais t'es obligé d'attendre. Enfin moi je trouve ça nul à chier. Il est pas si rapide que ça. Enfin franchement,
il devrait le faire un peu plus vite.
Il aurait pas été cher, pourquoi pas. Mais vu qu'il était cher au début du jeu.
Ouais. Après je trouve qu'au niveau des effectivement. Si, comme Mikawa et Pierre, vous tombez dans Sujimon ou l'Animal Crossing dégueulasse, vous allez te péter thunes. Ou si, comme moi, vous faites les donjons vous allez être pété de thunes aussi. Donc en vrai, la thune, c'est pas trop un problème.
Il y a plein de moyens d'être riche dans ce jeu. Ouais. Ça, c'est vrai.
Alors effectivement, faut noter
Infinite Wells hein, en même temps.
Ouais. Faut noter le bon point des déplacements là en taxi qui change tout. Néanmoins, là où il y a un intérêt entre guillemets dans le Segway, et je pense que c'est un point crucial dans le jeu, c'est on va dire les déplacements dans l'open world et on va dire la sursollicitation des merdouilles et des trucs et des machins qu'il y a tout le long d'un parcours classique de tu te dis tiens faut que j'aille voir telle boutique ou
ouais il y a plein de merde à ramasser
ou
partout
dès que ton intérêt est suscité par quelque chose. Ouais, vas-y Mikael.
C'est tout l'inverse de ce que je vous disais pour Spider-Man, où je vous disais que c'était un pot pourri, que c'était un jeu qui n'inventait rien, mais qui avait l'immense mérite de pas te noyer malgré sa quantité de contenu, parce qu'il te l'a débloqué au fur et à mesure de la quête principale. Alors il y a un peu de ça dans Yakuza, parce qu'il y a des zones où tu vas pas au début parce que t'as pas le niveau, mais pour le coup tu ressens vraiment ce côté « je vais te noyer sous ma quantité de contenu ».
Parce que justement, j'ai noté, en termes de surcharge cognitive, de machins et de trucs et de tout ça, alors attendez, il y a du coup les quêtes secondaires qui peuvent se où il y a beaucoup de quêtes secondaires qui se déclenchent à la prochaine fois que tu vas repasser devant le même personnage. Donc déjà, ça va te mettre une petite icône de ah oui, tiens, faut que je fasse un petit détour par là. Ensuite, t'as les bingos de l'amitié. Donc c'est un truc pour monter en affinité avec un personnage. Ça va déclencher une ligne de dialogue. Il y a aussi un système de photos à prendre, comme dans Breath of the Wild, où t'as un appareil photo. On te dit, tiens, faut que tu trouves l'endroit et que tu le prennes en photo. Auquel s'ajoute aussi...
Ça aurait été un jeu Ubisoft, on l'aurait défoncé.
Mais le truc, c'est que j'ai même pas fini, parce qu'il y a aussi donc le truc des Pokémon, là, les dresseurs Sushimon et les Sushimon à...
Les Sujimon, pas les Sushimon.
Autant pour moi. ouais, les Sujimon à recruter et les dresseurs à combattre. Mais aussi les recharges d'overboard, les taxis à... Au départ, t'as un brouillard de guerre, et donc faut aller découvrir les zones pour récupérer les taxis. Donc ça aussi, ça peut faire un détour. Des mallettes à ramasser, des herbes à cueillir, des fruits, des machins où ça se ramasse avec encore un autre bouton, avec un petit cercle autour des poubelles et des bagnoles.
Oui, aussi, c'est avec X, ouais.
Et aussi la pêche, aussi.
Ouais.
Il me semble que c'est exhaustif, je crois que j'ai rien oublié, mais effectivement, et tout ça, c'est à peu près des merdouilles. Et ça, et t'as aussi des
très
discussions.
Peu de trucs sont utiles, ouais. Enfin,
et t'as
la
aussi
plupart sert à rien.
Discussions contextuelles qui peuvent se déclencher aussi.
Et t'as tout le truc des voilà. Du comment dire, du sociogramme où tu fais des aloha pour
et les
pour
aloha,
matcher.
Voilà. Et les aloha aussi que j'ai oublié. Et tu vois par exemple le Segway, il sert à ça. Il sert à, effectivement, si tu joues qu'avec le taxi, tu passes à côté de toutes ces merdouilles. Et dans le tas, il y a quand même des trucs sympas, hein, genre les bingos de l'amitié et les discussions, elles sont quand même cool.
Ouais, globalement, les bingos de l'amitié, c'est une bonne idée.
Où faut repasser devant, si tu joues qu'avec le taxi, effectivement, tu passes à côté de ça.
Ouais, c'est vrai.
Il y a aussi les animaux à qui il faut donner à manger.
Mm-hmm. Mais il y en a certains que tu peux matcher dans le sociogramme, justement, enfin, dans l'espèce d'application.
Ouais, dans le truc des amis. Donc, ouais, c'est ça. Ça, je pense, c'est un point important aussi, le côté. Ouais, sur sollicitation de l'open world, qui dans le flow du jeu te dérange pas trop et je pense ça participe à te captiver au jeu. Hein,
ah mais clairement c'est un jeu qui a ce côté hypnotique assez rapidement dès que t'as accès en fait à la map à l'open world et en vrai je suis ambivalent par rapport à ça parce que d'un côté je trouve ça effectivement c'est aliénant enfin c'est en même temps ça te maintient dans une espèce d'état, tu vois, de satisfaction avec des petits
constant.
Des petites constants, voilà. Et en même temps, enfin, dès que tu sors du jeu, tu te dis mais putain, mais j'ai passé genre 10% de mon temps de jeu à ramasser des trucs qui servent à rien. Genre c'est complètement débile, tu vois. Au bout d'un moment, genre moi j'ai lâché l'affaire, tu vois. J'ai arrêté de ramasser les trucs, j'esquivais les ennemis, j'allais vraiment à mon objectif parce que c'était trop quoi, ça devenait fatigant. Je pense qu'il y a un mauvais dosage de ce genre de petits trucs dans l'open world qui fait que le jeu peut être un peu too much, genre qui te sollicite trop, il t'aliène trop. Je
pareil,
pense qu'ils ont mal dosé.
Pareil, moi, je suis ambivalent là-dessus parce que vraiment en jouant, ça m'a pas dérangé. Genre, j'ai un regard critique là-dessus, mais c'est pas quelque chose qui m'a déplu dans le jeu, quoi.
Ouais, non, mais c'est
je suis plutôt d'accord avec Monique. C'est un truc qui est assez particulier. Je trouve vraiment qu'il y a, bah, encore une fois, ce côté un peu oppressant. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce côté gigantesque bac à occasion d'activité colle plutôt bien avec l'ambiance décalée du jeu où tu dis, putain, à tous les 4 mètres, qu'est-ce qu'ils vont me mettre comme connerie? Et j'ai beau trouver les quêtes secondaires les plus classiques ultra archaïques, il y a toujours ce petit décalage qui fait que, en fait, le jeu est un bordel génial qui part dans tous les sens. Et je le trouve plutôt réussi là-dedans. Et finalement, bah, cette profusion d'activités, ok, t'as le côté oppressant, ok, t'as le côté tu sais plus où donner de la tête, ok, ton temps est gaspillé, mais c'est pas un RPG qui est dans l'optimisation du temps. Et ça, c'est même par rapport aux défauts que vous avez évoqués sur les stats, l'équilibrage, le côté RPG, le manque de polish. Je trouve vraiment que c'est un RPG que tu vas pas aimer pour ses stats, que tu vas pas aimer pour son côté ultra carré, progression, mais que tu vas aimer pour son côté parc d'attraction, quoi.
Et d'ailleurs, c'était bah, pour le coup dans l'émission d'Origami dans laquelle a participé Pierre, il y a Moguri qui avait trouvé, alors il n'avait pas trouvé l'expression exacte, mais le côté touche à tout, bon à rien.
Oui, c'est ça. Expert en tout. C'est vrai. Ouais. Enfin, c'est non. Expert en rien, ouais, c'est ça.
Ouais, pardon. Ça touche à tout, bon à rien. Et là, pour le coup, je trouve effectivement que le jeu, il atteint un peu des limites parce que, bah voilà, moi je trouve quand même que le bilan des mini-jeux, il est assez mitigé sur celui-là.
Ah, je c'est quand pas... même. Mais, enfin, si tu compares avec les anciens épisodes de la saga Kiryu, je trouve quand même que c'est mieux.
Ça dépend.
Quasiment à tout.
Ça dépend de l'épisode. Je trouve le 0 s'en sortait bien. Les deux gros mini-jeux, t'es quand même mieux foutu. Après.
Après,
il y a beaucoup de trucs qui reviennent, hein, tu sais, genre les fléchettes, les trucs comme
oui.
ça.
Bah, ça, c'est, voilà. Maintenant, c'est devenu des passages obligés.
Effectivement, pareil, le karaoké, depuis qu'il a été rework, maintenant, il marche bien, c'est
bah,
fini.
Il marche bien, enfin, faut reconnaître que les chansons sont super et que le jeu fonctionne, mais en termes de sensation, de plaisir d'appuyer sur le bouton, c'est pas ouf, quoi.
Ouais, genre, le problème, c'est que j'ai des PTSD de l'ancien et il est vraiment mieux. Genre,
ouais,
déjà,
ouais, non, mais...
genre, déjà, les
bien
trucs
sûr.
Sont à peu près mieux en rythme.
C'est clairement correct.
On partait de là où c'était
ouais,
un jeu de rythme qui était pas en rythme.
Qui était pas en rythme. Non, mais d'accord.
On partait de
mais
là.
Mais par contre, enfin, je trouve que la satisfaction, c'est encore une fois, les mini-jeux sont corrects sans être incroyables et ça vaut pour absolument tous les mini-jeux en fait. Hein, que ce soit le Crazy Taxi en vélo, que ce
éclaté.
Soit même les gros trucs genre le Animal Crossing sur l'île aux Golemons là
éclaté
et les Sujimon bah
éclaté
non mais en soi je rejoins pas Monique c'est pas si éclaté alors t'as des trucs en fait
c'est correct pour
faut
moi
faut pas
c'est...
t'y attarder genre le Animal Crossing toute la partie combat c'est une catastrophe
c'est un truc de ouf
mais en soi tout est tellement il y a un petit côté addictif dans tout, je trouve, en fait.
Ouais, je suis
c'est
d'accord.
C'est ça qu'ils ont réussi à faire. C'est qu'en fait, ils ont beau avoir des mécaniques qui parfois sont un peu daubées du cul, il arrive très bien à faire marcher ton circuit de récompense à court terme et avec un enjeu à moyen terme, ce qui fait que ça fonctionne bien et ce qui fait que, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont dit « Animal Crossing, il est daubé, mais ça fait 5 heures que je suis dessus. »
Ben, c'est exactement ça. Et en vrai, j'aurais pas passé 90 heures dessus... Enfin, ou 80 heures de jeu, si j'avais pas été pris dans le truc, parfois un petit peu à mes dépens, sans que je sois totalement consentant, mais si ça fonctionnait pas, ça m'aurait pas attrapé autant, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait attraper
moi,
quand même par le jeu.
J'avoue, le Animal Crossing, moi, ça a été une torture pendant une heure, ce qu'on t'oblige quand même à y
bah,
jouer.
Moi,
une partie,
j'étais
quoi.
Pareil que toi, et j'ai su retourner, et la deuxième fois, ça a fonctionné. Et c'est tout. Hein. Après, voilà, comme dit Mikawel, il arrive quand même à faire fonctionner, aussi bancal que soient certains aspects, le truc tient. Tu vois, c'est comme une tour de Capla. T'as l'impression que le truc va s'effondrer, mais elle tient. Et je trouve que le jeu est un peu comme ça. Maintenant, parlons quand même de ces immenses qualités qui font aussi qu'on y reste et qu'on y l'apprécie beaucoup.
Et on va y aller sur les zones spoilers aussi.
On va y aller sur les zones spoilers, mais sur la partie, sur la partie gameplay, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je trouve qu'il y a un petit point qu'on n'a pas évoqué qui est quand même vraiment mieux que le précédent, c'est le système de job qui te permet. Donc déjà, il y a des nouveaux jobs et tout. Mais dans le précédent, en fait, le gros souci, je trouve, du système de job, c'est que tu ne pouvais pas choisir les compétences que tu gardais en changeant de job quand tu avais maxé un job. Là, en fait, le jeu est beaucoup plus ouvert à ce niveau-là. Tu peux vraiment faire ton, entre guillemets, ton build, même si le terme n'est pas tout à fait adapté, mais tu peux vraiment choisir les compétences que tu veux garder, faire un peu ton truc à la carte, ce qui est beaucoup plus plaisant, en fait, pour développer ses persos.
Ah oui, globalement, c'est vraiment un meilleur RPG que celui d'avant.
Ouais, et franchement, le système de job, moi, je l'avais quasiment pas creusé dans le précédent. Là, j'ai un petit peu plus, même si, évidemment, à chaque personnage correspond un peu, il y a une classe unique, en fait, à chaque perso, et c'est globalement quasiment tout le temps la meilleure.
Non.
Mais c'est quand même cool de pouvoir faire un peu des tests et de garder des compétences de certains jobs qui sont très puissantes.
Alors, excuse-moi, petit point tryhard, au contraire, les classes uniques, elles sont pas du tout rentables, parce que vous allez devoir investir une arme que vous allez pas pouvoir transporter de personnage en personnage.
Or, ouais, mais au final, si tu fais ça pour tous les persos, ça fonctionne. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis.
Ouais, mais
ça,
sinon, hein. Tu te retrouves à farmer comme un débile des armes et tout. Là, en vérité, pour les gens un peu plus respectueux de leur temps et qui veulent, imaginons, y jouer 50 heures, je pense que on peut avoir une très bonne expérience du jeu en
oui,
jouant que 50 heures. Il vaut mieux.
Les gens qui jouent que 50 heures, ils ont pas besoin d'optimiser à fond leurs armes, parce que même en passant 0 minute au craft d'armes, tu termines le jeu sans grande difficulté. Il est pas dur.
Alors ça, je sais pas trop, parce que, quand ça s'appelle, pour le coup, il y a pas de mode facile, il me semble, si t'as pas les DLC.
Non, le mode facile, il y a même pas de mode facile en DLC,
ouais,
je crois.
Ça. Donc ouais,
c'est
y a
uniquement
pas
un New Game Plus.
Il y a pas de mode facile, toi, je me dis, sur quelqu'un qui se dit, je suis pas trop attiré, enfin, moi, je joue vraiment pour l'histoire. Par exemple, c'est mieux de se concentrer sur 5 classes, voilà, d'en avoir 2 pour les meufs, 3 sur les mecs. Et voilà, petit conseil.
Ouais, mais de toute façon, comme dit Mikael, le jeu est pas très difficile et il te donne quand même suffisamment d'XP dans la quête principale pour que globalement tu sois jamais vraiment bloqué, quoi. Si tu fais à peu près le circuit prévu
ouais,
par
pas,
le
moi,
jeu.
J'ai quand même l'impression que les armes, ça a vraiment fait la différence. Après, moi, le truc, c'est que aussi, moi, j'ai vraiment roulé sur le jeu, hein, parce que j'ai toujours les armes maxées à chaque fois.
Ouais.
Donc,
Ah, mais même sans rouler sur le jeu, en vrai, il est pas très dur.
Moi, je pense que tu peux terminer tout le jeu en passant complètement à côté du craft, comme tu peux passer complètement à côté de plein de mini-jeux.
Ouais, possiblement. Ouais,
possiblement
ça me choquerait
aussi,
pas.
Ouais.
Bah, justement, Mikael, toi qui avais découvert la série avec l'épisode précédent, du coup le 7, sur la partie un peu plus scénar, parce que là on va y venir, pour l'instant on parle pas trop des spoilers, mais quand on abordera la question des spoilers, on vous le dira évidemment. Qu'est-ce que t'as pensé de cette espèce de réunion de personnages avec ce nouveau perso, donc Ichiban Kasuga, qui avait marqué quand même les esprits, qui était un nouveau perso très réussi, vraiment, moi je trouve que c'était une vraie qualité du précédent. Le fait de faire revenir le personnage de la série historique, donc Kiryu, est-ce que ça t'a semblé intéressant? Enfin, je sais pas comment t'abordes ce truc si tu connais pas trop les anciens. Sachant que moi j'ai fait que le Kiwami et le Zéro, donc je suis pas non plus un expert, hein. mais qu'est-ce que t'en penses du coup de ce choix, et est-ce que le scénar du jeu t'a quand même plu et tenu en haleine?
Là-dessus, ouais, il y a aucun problème. Je pense que si vous avez fait Like a Dragon et que c'est le seul que vous avez fait comme moi, vous aurez absolument aucun problème à rentrer dans le scénario. Le personnage de Kiryu est suffisamment présenté dans le jeu pour que tu puisses le kiffer malgré tout. Par contre, c'est clair qu'à un moment, tu vas retrouver d'autres personnages importants de la série. Le jeu va te faire comprendre qu'ils sont importants et toi, tu vas être un peu Osef, là où j'imagine que Monique oui. a été comme un ouf. Il y a énormément dans la profusion de contenu. T'as oublié un truc, Monique, par volonté de pas spoiler, peut-être.
C'est ça.
T'as des souvenirs. Je peux le dire, je pense, parce que
oui,
sans dire plus,
pas un gros spoiler,
t'as des souvenirs de Kiryu que tu peux collecter aux quatre coins de la ville, mais en plus la mécanique est exactement la même pour le bingo des anecdotes, c'est-à-dire que tu vas à un endroit et t'as Kiryu qui va dire je me souviens ici, il y a 10 ans j'ai mangé un sushi, et parfois ça va être littéralement des trucs comme ça, genre tu vas passer devant un bowling et il va dire non, ou qu'est-ce que c'est, ou du golf, et il va faire ouais, je me souviens, je faisais beaucoup de golf à cette époque.
Ouais, mais c'est des souvenirs,
et
des
ça,
moments
en fait,
poignants.
Non, mais Alors, il y a des moments qui m'avaient l'air d'un œil de néophyte pas forcément poignant. Il y en a qui avaient l'air effectivement très, très poignant. Du coup, il y a beaucoup de choses. Ça, j'avoue, moi, je suis passé complètement à côté, mais c'est pas dérangeant. Et je trouve que le jeu a un très bon équilibre. Au départ, j'étais en mode, putain, il force avec le fanservice pour ses souvenirs, mais ils sont totalement dispensables. Ouais. Si on prend la quête secondaire, je trouve que c'est un jeu qui est, de mon point de vue de néophyte de la série, génial, parce que tu sens qu'il y a énormément d'hommages à la série, et ça m'a même donné envie de découvrir les anciens, mais en même temps t'as pas l'impression d'être en mode je joue à FF15 et j'ai pas vu le film et toutes les œuvres qu'ils ont produit à côté.
Oui, c'est ça.
T'as pas le côté, j'ai l'impression d'avoir une partie de l'histoire qui est complètement amputée. Donc je trouve que très bon équilibre là-dessus. Ouais. Et je pense que pour les fans, et du coup je tends le plateau à Monique, enfin, ça doit être une régalade, non, en tant que fan de la série.
Ouais, c'est ça, et c'est là où, alors, pour le coup, zone spoiler, hein, là, je pense qu'on peut y aller.
C'est, oui, ouvrons la partie spoiler. Ouais.
Ça, donc, Kiryu, il a un cancer, il y a un moment où il doit abandonner la bataille à Hawaï et retourner au pays. Donc, déjà, ça fait plaisir, parce que quand même, on joue Like a Dragon pour ce Jaja le pompon, comme on dit. et du coup... pour combattre sa maladie, on lui dit ouais, faut qu'il aille mollo, tout ça, que tu fasses, comment dire, il fait une liste en gros des choses avant de mourir et toutes ses activités, ça va faire augmenter des points qui vont faire revenir Date-san qui dit ouais non c'est chaud, tu vas crever quand même, viens, on rappelle des anciens amis, et du coup, il y a plein de copains qui reviennent. et c'est ouf. Parce qu'après, voilà, on les a en invocation. Et puis, ouais, c'est ça. Le truc, c'est que, effectivement, c'est optionnel, mais voilà, les fans mangent extrêmement bien dans cet épisode, quoi.
Oui, c'est presque une sorte de méga best-of de tous les moments. C'est intéressant parce que, genre, pour le coup, c'est un adieu. Alors là, comme on est en zone spoiler, on peut le dire, on apprend au deuxième chapitre que Kiryu, il a un cancer et qu'il va mourir. En tout cas, c'est ce que le jeu nous dit. Et donc, bah, clairement, le personnage est face à la mort. Il n'y a plus vraiment d'échappatoire, a priori, en tout cas, dans un monde normal et logique. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, ils te font vraiment l'inventaire de toute la série, au point où je pense que beaucoup de gens ont pu se dire que c'était un petit peu trop. Je comprends totalement le point de vue de Mikawel. Moi, j'ai pas tout fait, en plus, pour le coup, j'ai pas assez de connaissances des anciens pour vraiment avoir tous les éléments de lore.
Pour le coup, ouais, c'est vraiment pour les fans. Hein.
C'est vraiment, faut avoir fait tous les épisodes, quoi. Enfin, si tu veux tous les aspects, toutes les refs de la partie Kiryu, aller des souvenirs, quoi.
Ouais, à part les 3 et 4 qui, en vrai, servent pas grand-chose, rétrospectivement. Okay. Ça va, ouais. Ça va.
Mais du coup, non, vraiment, jeu assez, comment dire, assez colossal dans ses ambitions. Et je trouve que, enfin, c'était quand même ultra casse-gueule de faire revenir à ce point-là Kiryu. Enfin, l'importance de Kiryu dans le jeu est quand même, c'est quasiment un duo. Enfin, je dirais que c'est 50-50 au final en termes d'importance de personnage.
Oui, totalement.
Du coup, c'était quand même assez casse-gueule. Et globalement, le jeu s'en sort ultra bien. Et notamment un point que moi, j'ai trouvé du début à la fin vraiment ultra réussi, c'est les relations entre les persos. Bon, les nouveaux personnages sont très cool, mais surtout la relation entre Kiryu et Ichiban. Je trouve qu'il y a à la fois le côté, bah, évidemment, le rapport fraternel, Kyodai, grand frère, Aniki, le côté grand frère mentor dans la culture japonaise qui est présent. Mais en plus, il y a un aspect un peu méta du fait du passage de flambeau entre les deux personnages à l'échelle de la série qui donne une dimension supplémentaire à la relation entre les deux, qui marche ultra bien. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une des grandes forces du jeu. Enfin, c'est limite un des moteurs du scénario et de l'intérêt, je trouve, de Like a Dragon, enfin du 8, quoi. Pour moi, ça fait partie des trucs qui m'ont vraiment bluffé. Ça m'a même impressionné par moments, je trouve, ce qu'ils en font en termes d'écriture. Franchement, j'ai trouvé ça super, quoi.
Il y a ça, et même les relations de Kiryu avec des personnages du 7, genre avec Namba, tu vois, c'est vraiment cool, avec Sanji aussi.
Ouais, ouais.
Parce que
là, pour
cool.
le coup, c'est une création, hein. C'est des relations qu'on connaissait pas encore. Enfin,
ouais,
c'est des nouveautés,
ça.
Quoi.
Ils ont réussi, je trouve, à pas mal relier, même aussi avec la nana du set, j'ai oublié son nom.
Saeko.
Ouais, voilà. Y a ça, même si je trouve quand même que les vers de l'amitié sont quand même un peu moins réussis dans cet épisode là que dans
le 7. Ouais,
un petit
j'avoue
peu moins.
Que je me souviens plus assez bien.
J'ai trouvé Inigo, moi personnellement. Il y en a, j'ai trouvé très très bien. Il y en a où
ouais, voilà,
c'est
genre
un peu longuet. Quoi.
Ouais, celui d'Adachi, tu vois, il est très dans longueur quand même.
Oui,
le truc,
c'est vrai. Par exemple, ceux des nouveaux, des nouveaux persos marchent bien. Donc Tomizawa et
oui.
Et la nouvelle meuf qui s'appelle comment déjà, j'ai oublié son nom.
Chitose, je crois.
Chitose, ouais. Ouais, je trouve que pour le coup, eux sont très bien écrits.
Mais Adachi, il y a pas d'enjeu. Enfin, il y a un enjeu qui est relativement mineur dans son verre de
oui,
amitié.
Il est éclaté
et
au
en
sol.
Fait, t'as des enjeux. Ouais, et t'as des enjeux qui sont très inégaux en fait. Donc bon.
Ouais, c'est un peu dommage. Ouais.
C'est ça, parce que même typiquement, moi, l'un de ceux que j'ai préféré, c'est quand même la relation Kiryu à Sanji aussi que ouais. J'ai trouvé super et aussi. Parmi les trucs plutôt réussis aussi, on pourrait dire enfin dans la saga, c'est quand même les personnages féminins, ils ont un peu élargi le spectre des archétypes de personnages féminins dans cet épisode. Là où avant, c'était un peu, on va dire, il y avait un peu l'archétype de une meuf qui met un peu sa vie entre parenthèses pour protéger...
Se sacrifie, quoi.
Ouais, qui se sacrifie pour un proche, quoi.
Le ouais. Chameau au sens de Nietzsche.
Après, ouais. Moi, il y a quand même pas mal de trucs où je me suis dit... Wow.
Oh. Alors,
bon,
sur les représentations,
pas jeu féministe, hein.
Sur ouais. Les représentations, je suis d'accord.
Non, mais sur quasiment tout. Enfin, sur les représentations, sur l'écriture à certains moments.
Ouais, il y a des moments.
Sur l'écriture, ça va.
En fait, c'est comme pour le 7.
Non, ça va, mais disons que vu qu'à côté, t'as tout le délire du jeu, si tu veux, j'ai tendance à être moins permissif. On va
oui,
dire.
Oui, il y a des trucs
ouais,
bizarres,
oui.
Mais
dire.
En fait, moi, je trouve que c'était un peu comme ça dans le 7 aussi. Genre, les personnages féminins sont globalement pas trop mal écrits, mais tu vas avoir des moments, vraiment, des petits passages dans le jeu très particuliers où il va y avoir une remarque, genre, je sais pas, sur la tenue de la meuf, des trucs sur son physique ou quoi, qui vont vraiment te sortir du truc et tu vas dire, mais non, là, c'est vraiment... C'est nul à chier de faire ça, tu vois.
Ah,
et
ça
c'est
m'a pas
ambivalent.
Choqué, ça, j'avoue.
Il y a quelques passages ouais,
enfin,
dans le jeu comme ça.
T'as des trucs de fond aussi, genre les deux persos féminins principaux du groupe, et j'ai complètement oublié leur nom parce que j'ai aucune
Chitose,
mémoire des noms, hein, vu les ID il y a deux secondes. Il y a une situationship avec le héros dont j'ai oublié le nom aussi.
Ichiban.
Ichiban.
Ichiban,
oh,
voilà.
Je trouve la romance, elle est assez bien traitée quand même.
Oui,
ouais,
non, mais
c'est
la romance
pas trop mal,
ça va, mais tu vois, pour Chitose, fallait aussi mettre une situationship tout au long du jeu. Et en soi, tu vois, il y a plein de trucs où, si tu prends les trucs à part, il y a aucun problème. Mais c'est que le jeu, tu dis, ah tiens, là, oh, un peu chelou, petite maladresse. Ouais, non, c'est rien. Mais en fait, il y en a partout, des trucs comme ça. Oh. Donc, je t'avoue que moi, c'était un peu pesant. À la fin.
Partout, je trouve que c'est un peu un grand mot. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même aussi un truc un peu malaisant de... Alors, c'est bien, ils ont mis des meufs. Mais par contre, tu sais, elles ont toutes 20-30 ans. Là où le jeu sur les personnages masculins, il couvre quand même un spectre d'archétypes de personnages extrêmement
mais,
élargi.
Mais c'est ça.
Ne serait-ce qu'en termes
d'âge.
D'âge, et
bah,
c'est
d'âge sur, ouais.
Sur les personnages féminins, on n'y est pas encore.
Il a 60 ans.
Et c'est ça que j'essaye de dire, en fait, sur le fait que j'arrive plus à être tolérant avec le jeu, c'est qu'il y a plein de trucs à part. Si tu veux, c'est un peu comme, j'en sais rien, moi. Quelqu'un va te dire une remarque, tu vas dire, c'est un peu chelou, mais ok, mais si c'est ton tonton raciste, tu sais tout de suite que ça va être ultra craignos. Eh ben,
ouais,
j'ai
voilà.
Un peu le même truc avec le jeu, c'est qu'en fait, des fois, il te sort de telles dingueries au niveau du traitement de ses personnages principaux, que quand il sort des trucs qui sont pas forcément des dingueries, j'ai du mal à me dire, ok, c'est rien, quoi.
Ah, oh,
enfin bon, je vais pas faire mon quart d'heure là-dessus.
Non,
mais
je comprends complètement le ressenti
rien,
de Mikawel et
je trouve
pense que c'est légitime.
Ouais.
Hein.
Pour moi, c'est genre, c'est pas choquant, mais disons que oui, il y a un peu, des étapes qui seraient temps de passer, on va dire, au bout de plus de 10
ouais,
jeux.
Ouais, on a vu pire, mais c'est qu'en fait, le jeu est tellement bien écrit aussi à côté de trucs, parce que
ouais,
c'est aussi un truc, il faut se rendre compte de ça, c'est que c'est un jeu qui est incroyablement absurde et con à certains moments, mais qui est virtuose dans sa capacité à passer d'une situation absurde et conne à quelque chose d'incroyablement bien écrit et poignant émotionnellement.
Dramatique et tout, de fou.
Et du coup, bah, à côté, t'as du traitement de personnages féminins qui est assez minable à certains moments, encore une fois, et tu te dis, mais on est où? Comme tu dis, Monique, il serait temps de passer à autre chose, quoi. Mais bon,
tu vois, je trouve que Persona 5, qui est quand même sorti il y a quelques années, avait ces moments de cringe sur certains points, mais au global, je trouvais que ça fonctionnait quand même un peu mieux sur la représentation, l'écriture des persos féminins. Je sais pas trop. Comme c'est un contexte peut-être un peu moins réaliste aussi.
Ouais, je pense que c'est ça plus qu'une qualité d'écriture.
Ouais,
qui
parce qu'il y avait des moments bizarres, l'ambiance dans Persona 5.
Oui, il y avait plein de moments assez gênants aussi. Hein, je reconnais, mais je sais pas. C'est pas un truc qui m'a. Mais après, c'est peut-être que le jeu est beaucoup plus frais aussi. On vient de le faire, donc c'est normal.
Oui,
que
enfin
ça...
bon, passons là-dessus. Ouais. Je pense que le message est transmis.
Et cela dit, rapidement sur les thématiques, il y a un truc qui m'a assez frappé quand même dans cet épisode, quelque chose qui est beaucoup plus présent, on va dire, que même dans les anciens épisodes, et notamment par rapport au 7, c'est, vous ne trouvez pas qu'il y a une vibe très « oh là là, les réseaux sociaux ».
Oui, ah bah si, notamment dans les quêtes secondaires, il y a pas mal
si,
de trucs comme
ouais,
ça.
Il y a ça qui est quand même super présent quand même, et c'est un peu...
C'est un peu bizarre, c'est un peu cringe par moment. Genre, la quête secondaire avec le mec de café qui avait fait une pub ou je sais plus quoi, et qui se fait harceler sur les réseaux
ouais,
sociaux.
Ouais.
Et c'est en mode, ah ouais, mais c'est quand même vraiment mieux de voir les gens en vrai, dans la vraie vie, parce que les réseaux sociaux, bon, quand même, c'est pas très la vraie vie.
Bah,
enfin,
c'est ça, alors...
C'est chelou un peu le
discours.
Alors
le truc, c'est, je pense, là il y a le côté, effectivement, contexte japonais. Voilà, qui, effectivement, faut peut-être l'avoir en tête, ou c'est vrai que même dans l'animé Oshinoko, c'est vrai qu'il parle beaucoup des réseaux sociaux sur l'angle du harcèlement, tu vois, genre... Au Japon, ouais. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose qu'ils ont pris, en tout cas, qu'ils ont pas mal embrassé, pris à bras le corps là-dessus. Là où j'ai l'impression qu'il y a un autre truc où c'est un peu plus, où ils ont peut-être un petit peu moins, ils ont peut-être un peu moins pris conscience là-dessus, ou en tout cas de ce que dépeint le jeu, c'est le côté, genre les réseaux sociaux, c'est la délation. Genre ils n'ont pas du tout le côté libération de la parole, ou très peu. On va dire, ou et rarement
ouais,
de manière très améliorative. Ouais, mais là, genre les réseaux sociaux, c'est genre c'est le truc des poucaves, quoi.
Ouais, c'est un peu le discours. Ouais.
Il y a ça, et effectivement, et toi, il montre que des fois, les poucaves mentent, les poucaves manipulent. Voilà, c'est quand même au cœur de l'intrigue principale. Et...
Oui, c'est un peu les victimes sont des manipulateurs, quoi.
Ouais, ou c'est plutôt...
pas forcément les victimes,
ouais,
mais
c'est
ceux
ça,
qui prennent la parole.
C'est ça le truc. Alors, même si, quand même, dans l'un des vers de l'amitié, effectivement, il y a un truc qui contrebalance pas mal là-dessus. C'est avec Namba, si je me souviens bien, où tu sais, il y a une collègue qui dénonce justement du harcèlement sexuel, apparemment, notamment même sur les réseaux sociaux et tout. Et toi, ils disent qu'effectivement, ça n'a jamais entaché sa carrière. Tu vois, il y a quand même... Là-dessus, il y a quand même une petite prise de recul et prise de conscience des enjeux de libération de la parole, tout ça.
Ouais.
Mais tu vois, genre, c'est pas traité très avec sérieux, alors que quand même, la question de la surveillance et du contrôle à travers les réseaux sociaux, la technologie, tout ça, c'est quand même quelque chose qui a été un peu en lame de fond dans la saga et d'une manière générale s'émanciper des bulles de contrôle, tout ça, c'est un thème vraiment récurrent dans la saga, et tu vois, ils n'ont pas du tout embrassé dans cet épisode, alors qu'ils en tartinent pas mal sur les réseaux sociaux, quoi. C'est...
Ouais, au
je
final...
Je trouve que c'était pas un acte manqué, mais on va dire, note un peu amère là-dessus, quoi.
Ouais, un angle mort, peut-être, du jeu, mais au final, la thématique du contrôle, elle est quand même présente à travers un des antagonistes, donc le chef de la secte, là. T'as quand même cette dimension de contrôle des esprits. Alors, c'est pas du tout sous l'angle société de contrôle via la technologie.
Ouais, c'est ça.
Sous un angle métaphorique, en fait.
C'est ça, tu vois, ils ont pas fait le lien. Le seul lien qu'ils ont fait, c'est regarder le gourou de la secte. Il utilise la libération de la parole et à dénoncer. Et même, alors pas la libération de la parole, plutôt la dénonciation ou en tout cas le journaliste d'investigation pour manipuler les gens. C'est genre, regardez Raël, il tire les ficelles des VPNL pour rester au pouvoir, tu vois, dans l'idée, c'est vrai, ils ont pas trop embrassé la thématique sérieusement, je trouve.
Oui.
C'est on va dire, un petit acte manqué. C'est pas non plus un défaut, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, mais ils ont pas poussé le truc plus loin, quoi.
Enfin, globalement, je trouve que même si en termes de rythme, je trouve le scénario principal un petit peu moins dans le côté monté en puissance je le trouve un petit peu moins constant et sans cesse mieux que le précédent. Enfin, le 7 avait vraiment ce côté, c'est de plus en plus, ça monte vraiment en puissance, quoi, tout simplement. Alors que là, je trouve qu'il y a quand même des baisses de rythme, des moments où ça casse un peu dans le dans la progression. Sur le plan
et il y a des moments où je trouve que ça s'accélère. Enfin, genre, t'as l'impression qu'il se passe rien pendant toute une phase et d'un coup, blam, allez.
Exactement.
Bah, notamment, voilà, la pause qui arrive avec le chapitre 8.
Ouais, c'est un peu en mode méga coup de frein sur la partie scénario. Et c'est vrai que ça pourra en rebuter certains, même si je pense que si t'es déjà pris dans le jeu et que tu vas jusque-là. Bon, tu vas passer outre, je pense, ce passage-là, si t'as vraiment de l'affect pour le jeu. Mais oui, il y a pas mal de petits trucs. Mais enfin, globalement, pour moi, c'est candidat potentiellement au GOTY.
Ah ouais, clairement.
Et c'est quand même un super jeu. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. C'est un bon 8 sur 10, coup de cœur de mon côté. Et j'ai l'impression que vous avez quand même bien aimé ce que vous avez joué, quoi.
Ah ouais, pas loin du 9, hein, pour moi.
Ouais.
Ouais, exactement la même chose. Et je trouve qu'il apporte... On ne l'a pas beaucoup évoqué, mais comme a dit Monique, au niveau des déplacements, et les placements, c'est mieux géré. C'est pareil, ils ont donné un peu plus d'enjeu aux relations avec les personnages en transcrivant ça à travers des bonus dans les combats. Et en fait, le jeu a pas mal de bonnes idées, pas mal de petites améliorations. Et je pense qu'au-delà de toutes les critiques qu'on a fait, moi j'ai saigné les mini-jeux, c'est pas pour rien. Comme ce que disait Monique, moi j'ai saigné les donjons aussi, c'est pas pour rien. C'est un jeu qui te donne envie de passer du temps. Toi, le vieux, tu disais que t'étais bien dans l'univers et que du coup, t'avais envie de faire le contenu.
Bah,
je trouve qu'il a un
côté Hawaii
hypnotique qui fonctionne très très bien, en plus d'avoir un bon scénario. Bah, et je trouve que c'est rare le combo des jeux qui arrivent à faire ces deux choses.
Ouais,
parce que t'as
d'accord.
des jeux qui sont fun au niveau du contenu, avec plein d'activités. T'as des jeux qui te promettent des grandes aventures. Là, t'as les deux. C'est une grande réussite. Franchement,
ouais, je suis d'accord.
Coup de cœur.
Franchement, juste, belle conclusion.
Juste par rapport au côté recommandation du jeu. Il y a quand même pas mal de recyclage entre guillemets par rapport au set, même
Mais attends, il y a une nouvelle map entièrement construite.
Oui,
enfin,
mais même
ouf, ça,
au niveau comment s'appelle du scénaristique, le côté quand c'est ton deuxième jeu de la série, tu as découvert tous les mini-jeux dans le set, bah il y en a quand même beaucoup qui reviennent.
Oui.
Donc toi, genre par exemple, les gens qui viennent de faire le set en se disant ouais, il y a le 8 qui me chauffe. Je me demande s'il n'y a pas un petit risque d'indigestion.
Voilà. Overdose.
Faut pas les enchaîner.
C'est ça.
Bon, c'était déjà le cas pour les précédents épisodes. Hein. Je pense que c'est des jeux qui.
Ouais. Oh, il y a des fois où il y a des fois où il y avait quand même un peu plus des ruptures où les jeux allaient quand même parler de trucs très différents et tout. Là, il y a quand même un. J'ai peur que quelqu'un qui enchaîne les deux se dise ah ouais, c'est pas mal de la redite, quoi.
Oui, et puis en plus par rapport aux anciens, faut dire que le jeu est vachement plus long. Que les premiers, enfin, les premiers Yakuza, je pense que ça peut se faire en 20 heures, 25
ah oui,
heures.
Oui, là, clairement.
C'est,
ouais.
Là, c'est du 45-50 heures de jeu
c'est ça.
Minimum pour le finir. Donc, on est sur un gros morceau, mais qui, dans sa globalité, reste super intéressant. Et un jeu, enfin, j'ai peut-être préféré un petit peu le 7 pour sa dimension vraiment cohérente, contenue et scénaristique, je trouvais vraiment incroyable. Et oui, enfin, même les personnages et tout. Bon, ça se tire la bourre. Le 8 est vraiment très très proche du 7, je trouve, en termes de qualité.
Alors, je trouve thématiquement pareil, le 8, je le trouve plus réussi aussi que le 7. Notamment, même. Alors, c'est tout con, mais le côté. Le fait d'avoir ramené le Deicide. Parce que c'est un JRPG.
Tu trouves le 8 plus intéressant thématiquement? Moi, je disais l'inverse. Hein.
Ouais,
je trouvais que le 7 était un peu plus intéressant.
Justement, moi, je trouve l'inverse. Le 8, je trouve quand même plus deep. Ça, le côté ramener le déicide, le côté écologique, sont quand même des trucs hyper importants et hyper symboliques du JRPG. Là, ils n'ont
retransmis... Oui, mais enfin, ils en font rien de... Enfin,
si,
ils l'inscrivent dans un contexte réaliste.
Et dans plein de trucs. Même c'est l'enjeu du Animal Crossing aussi, la pollution, tout ça.
Ouais, non, bien sûr. Mais
c'est quand même important.
C'est très bien amené, mais ce qu'ils en font m'a pas autant matrixé que le rapport à la corruption qu'il y avait dans le 7, par exemple.
Ouais, mais tu vois,
le
truc, c'est que là où le 7, c'était très... On a mis du RPG dans Yakuza. Là, je trouve, ils ont réussi à mieux emboîter les choses. Thématiquement.
Ouais.
Et
okay.
Ludiquement.
Bon.
Et le dernier point aussi, j'avais dit une connerie dans le dernier podcast. C'est pas de l'Unreal Engine, celui-là. C'est, c'est le moteur maison.
C'est le Dragon Engine.
C'est ça. C'était que Ishin qu'ils ont refait sur Unreal.
Ouais, ok. Bah, merci pour la précision. Et donc, ça conclura notre segment sur Like a Dragon Infinite Wealth. Vous l'aurez compris, on a beaucoup, beaucoup aimé. On va enchaîner rapidement sur les autres jeux auxquels on a joué, mais on va pas s'éterniser.
Alors, petit point, est-ce que niveau temps, on a le temps? Je sais pas.
Bah, ça va prendre 30 secondes. Hein. Vraiment.
Moi, je les garderai pour le prochain, du coup.
J'ai fini Baldur's Gate 3. C'était très bien. 170 heures de jeu. Vraiment, je m'aboule. Je pense pas que je refasse une run très rapidement. Je sais qu'il y a des gens qui ont enchaîné tout de suite, qui ont voulu absolument refaire une run en faisant des choix différents et tout. Moi, je pense que j'ai eu ma dose. Peut-être dans quelques années, j'aurai envie d'y rejouer. On verra avec Carole ce qu'on fait. Mais c'était très bien, voilà. Juste un petit point, vraiment pour dire que j'ai fini le jeu, quoi. Et j'ai commencé Alan Wake 2. Pareil, on le fait en coop. On se passe la manette, du coup, avec Carole. Le jeu a été vraiment sursucé par toute une communauté de gens, notamment des fans de Remedy. Je trouve ça assez intéressant pour le moment. Je trouve que niveau gameplay, c'est quand même assez moyen, enfin, pour pas dire éclaté au sol. Même si... Enfin, je trouve que le jeu arrive quand même avec ses effets de mise en scène et avec ses originalités. Il y a quand même quelques trucs que tu vois jamais dans un jeu vidéo que le jeu réussit à faire. Il arrive quand même à me tenir un petit peu intéressé dans ce qu'il va nous proposer par la suite. On est encore au début, hein, on n'a que quelques heures de jeu. Mais voilà, je vous en parlerai plus longuement dans le prochain numéro. Et si vous n'avez pas d'autres jeux, je pense qu'on va pouvoir passer...
Juste histoire de dire Balastro, la
frappe. Ah oui, c'est vrai, Balastro. Ouais, vas-y, non, dis-nous.
La frappe. J'en reviendrai le mois prochain, mais incroyable.
J'ai hâte que tu nous en parles plus en détail. C'est un jeu qui commence à faire pas mal parler de lui et il a l'air de vraiment avoir son petit succès. Très bien. Bon, après ce gros morceau sur Like a Dragon, je vous propose qu'on passe maintenant à la dernière partie de l'émission. La fameuse traditionnelle rubrique hors-jeu. Juste après la petite musique. Du coup, pour conclure cette émission avec autre chose que du jeu vidéo, on va parler de nos recommandations culturelles. Et j'avoue que j'ai eu une énorme flemme de vous trouver quelque chose. Je sais pas trop quoi vous recommander. Alors, je vais faire de l'autopromo de façon complètement éhontée. On va sortir, peut-être qu'il sera sorti d'ailleurs au moment où vous écouterez ce podcast, un épisode d'un autre podcast que je co-anime avec Karel, qui s'appelle Hémisphère, je vous en ai déjà parlé ici, sur Premier Contact, le film de Denis Villeneuve, qui a eu un petit succès en 2016, donc Denis Villeneuve qui va sortir dans quelques jours Dune partie 2, le premier on avait adoré, on a hésité à faire un épisode sur Dune, mais on préfère attendre que la trilogie de films soit sortie, et donc on a décidé de parler de Premier Contact, qui est donc un film de SF sorti en 2016, dans lequel l'enjeu n'est pas de combattre des extraterrestres qui arrivent sur Terre, mais de communiquer avec eux, avec la question du langage qui est vraiment centrale dans le film, puisqu'on va appeler une linguiste pour essayer de décoder les messages que nous envoient ces extraterrestres heptapodes, puisqu'ils ont 7 pattes. Et donc ils écrivent de façon particulièrement étonnante, puisqu'ils ont un système de cercles qui contient l'intégralité du sens de leur discours, ce qui est totalement étranger aux cultures humaines et à notre manière de voir le langage. Film ultra deep aussi sur le rapport au temps, avec un twist de milieu de film qui, je pense, a marqué ceux qui l'ont vu. Et donc, on en a fait un épisode d'Hémisphère qui dure 1h30 et quelque chose comme ça, où on décortique les influences du film, c'est les éléments philosophiques qu'il essaye de développer, la production. Enfin, on essaye de vraiment parler de tous les aspects du film qui sont intéressants. Et j'espère que ça vous plaira si vous écoutez ça. Merci en tout cas de vous intéresser à ce podcast. Voilà. Désolé pour la partie auto-promo.
Mikael,
est-ce que... Oui, bah, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je sais que le film a eu un petit succès, donc je me dis, pourquoi pas, ce sujet-là pourra peut-être plus parler aux gens que des trucs un peu plus obscurs dont on a parlé dans Hémisphère. Voilà. Mikael, est-ce que tu as une reco?
Alors, auto-promo, je vends une Peugeot 206.
Non, oh pas là du là tout.
Très bien.
Non, c'était... alors, je l'ai pas terminé. Je suis encore en cours de lecture, mais c'est plutôt sympathique. Le roman Le Mage du Kremlin.
Ah,
qui
putain,
est plutôt mainstream.
Je l'ai lu, c'est très bien.
Ben voilà, il est plutôt mainstream. Hein. Il a eu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Plutôt cool, parce que, en fait, quand on me dit un roman qui va t'aider à comprendre un petit peu le jeu de pouvoir et l'histoire de la Russie, ça peut sembler être un truc particulièrement austère, mais c'est écrit d'une manière que ça se lit vraiment tout seul. Ça fait environ 300 pages, et pour une lecture traitant de thèmes aussi sérieux sous la forme d'un roman, je trouve qu'il réussit l'exploit à être aussi simple à lire qu'un Stephen King de pur divertissement. Donc foncez, c'est très très bien, et forcément l'époque où on est rend le thème d'autant plus savoureux, entre guillemets.
Oui, effectivement, ouais. J'avoue que l'actualité lui donne une dimension qui doit être particulièrement intéressante. Merci beaucoup Mikael, et je propose que Monique nous fasse sa petite recommandation pour terminer.
Ouais, voilà, comme à mon habitude, petite recommandation musicale. Alors c'est un groupe que j'ai découvert récemment, alors qu'ils avaient explosé il y a un ou deux ans avec leur album Glow One, donc Turnstile, ça s'appelle, donc comme les tourniquets du métro. Voilà. Au niveau du son, moi c'est un jeu qui m'a qui m'a jeté en l'air, comme disent comme disent les Québécois, parce que voilà, genre ça ressemble, enfin dans les grandes lignes, c'est du punk hardcore, mais avec pas mal de groove. Il y a ça, il y a aussi des passages plus doux. Voilà, il y a une omniprésence de chorus et de reverb, notamment sur les morceaux Underwater Boy et New Heart Design, qui sont parmi mes préférés. Et voilà, donc du hardcore un peu à l'ancienne, la Minor Threat, mais en plus digeste, on va dire ça comme ça, et avec des compositions très minimalistes et pas mal de d'espièglerie et de groove, on va dire, dans l'utilisation de samples. Voilà, genre il y a des vieux sons de vieux drum kits des années 80 sur les contretemps, des petits trucs comme ça,
un peu nuisant en fait, hein, si je comprends bien.
Non, parce que c'est doux. Justement, c'est on va dire, c'est une musique normalement très dure, mais là ils ont réussi à en faire un truc étonnamment pop, et c'est un groupe qui a notamment été très très encensé aux États-Unis. J'étais très surpris, genre le New York Times, tout ça, le Washington Post, les Late Show, ils les ont invités pour jouer et tout, et je suis assez étonné.
Ok.
Pour un truc normalement que PTDR personne n'écoute, quand il y a des concerts. En tout cas, en France, genre vraiment, quand il y a des concerts de hardcore à Paris, vraiment, il y a 10 connards dans la salle, quoi.
Mais c'est pas le genre privilégié.
Mais, effectivement, ils remplissent l'Olympia. Tu sais,
Ah ouais. Ouais, c'est une grosse salle. Ouais,
ouais, je suis le premier étonné que. Alors après, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, Turnstile, le groupe, et l'album Glow One. Je recommande surtout cet album-là, hein, d'ailleurs.
Ça roule. Bah, Glow On, je mettrai de toute façon le nom dans la description de l'émission. Turnstile, ça s'écrit T-U-R-N-S-T-I-L-E, j'ai l'impression.
Exactement, comme les tourniquets.
Voilà. Ok, très bien. Bah, merci Monique, merci à vous, enfin Mikael aussi. Merci aux Patriotes qui nous soutiennent sur patreon.com/radiolibrius. Particulièrement Ted Tous qui vient de rejoindre le Patreon. On te salue. Punished Snail et Aimo qui sont là aussi depuis un moment. Merci à vous, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusque là. Un gros épisode, mais ça méritait quand même qu'on s'y attarde. Un jeu comme Like a Dragon, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Et bah, de toute façon, on se retrouve le mois prochain pour le rebranding, le rebirth de Radio Librius. Vous verrez ça, et on a hâte en tout cas de vous montrer tout ça. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut.
Salut.